dans le tempo. Vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, épisode 67. C'est parti. Bienvenue dans DLT,
un bonsoir, mercredi. Salman.
Bonsoir Daz. Tu sais qu'un mercredi sur deux, on se retrouve pour explorer le monde merveilleux de la musique, Daz.
Oui, je le sais.
Le savais-tu?
Je le sais, un mercredi sur deux, voire plus.
Voire plus? Ah bon?
Des fois, c'est un mercredi sur un, par exemple.
Non, mais ça pour nous, quand on enregistre.
Oui,
mais
il faut
pour les gens, les auditeurs.
Sur Internet, il faut expliquer ce qui se passe backstage. Les gens sont friands de ça.
Ils aiment. Mais on peut leur dire qu'en ce moment, on chôme pas.
On charbonne.
Ouais. On charbonne. On a plein d'épisodes de côté déjà. Trop bien.
Ouais. Et voilà. Là, on est mercredi pour de vrai, mais on se retrouve aussi vendredi, mais pour vous, ça sera toujours mercredi.
Ouais.
Non, c'est pas mal, là, hein, c'est pas mal.
En vrai, je suis content. Et puis, on reçoit de belles personnes.
Du beau linge.
Du beau linge.
Du beau linge, du beau monde.
Est-ce que ça vous va, Léo, Jérémy, du beau linge?
Du beau linge, tout va bien.
Très bien. Oui, puisque nous sommes avec Jérémy et Léo. Daz,
qui sont-ils?
Qui sont-ils? Ah, tu montres tout de suite leur album?
Montre. Ouais. Je montre parce que, déjà, parce qu'ils me l'ont offert.
Ouais.
Et je les remercie. Et merci aussi Jonas. En fait, je l'ai soufflé à Salman. Voilà.
Oui.
Donc, message pour les prochains. N'hésitez pas à venir avec deux exemplaires.
Tu veux des cadeaux, c'est ça? Non, ce n'est pas le but. Allons.
Non, bien sûr que non.
On reçoit avec plaisir les gens, avant tout pour le plaisir de la discussion, Daz.
Mais alors, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui, Salman?
Eh bien, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que Jérémy et Léo sont musiciens.
Alors, attention, musiciens.
Oui.
Quel type de musicien, Salman? Le monde veut savoir.
À la fois instrumentiste, à la fois arrangeur, compositeur. Ouais, vous touchez un peu à tout, on peut le dire, quand même, globalement, non?
Ben, de cette manière-là, oui.
Ouais.
Oui, on a plusieurs rôles, plusieurs casquettes.
Ouais.
On se sert un peu de toutes ces casquettes dans le projet dont on parle aujourd'hui, mais ouais.
En fait, Daz, si tu veux, ce qui est très très cool, c'est que on va parler aujourd'hui de musique classique. Ce qu'on fait assez rarement dans cette émission. Et.
Enfin, en parler en bien, du coup.
Oh, on est gentil, globalement, avec la musique classique.
Non, c'est obligé, hein.
C'est exprès.
C'est
pas,
mais c'est exprès. Parfois, t'es un peu dur.
Je vais le mettre dans la sauce dès le départ.
Tu sais quoi, on en parlera. Mais eux, ils ont une approche intéressante parce qu'on est dans un croisement très DLT, d'ailleurs, Daz.
Mm-hmm.
Entre musique classique, musique populaire. On va parler d'arrangement, d'interprétation. Et puis surtout de ponts musicaux entre les esthétiques et les pratiques. Parce que justement, c'est au cœur de ce que tu montrais, de phonographie. Alors, en fait, vous constituez une forme de collectif. On peut parler comme ça, code. Que vous menez principalement, mais entouré de musiciens aussi.
C'est ça. Il y a une équipe de musiciens avec qui on travaille depuis une bonne dizaine d'années, depuis 2013. Le 2013, c'est le tout premier projet de code. Et mon idée au départ, c'était surtout de monter un groupe de musiciens qui avait une expérience de la musique classique, mais qui avait aussi une expérience de la musique aujourd'hui. Enfin, la musique telle que les gens l'écoutent aussi. Et
la
comment,
musique contemporaine, actuelle.
Ouais, et puis la manière dont on l'écoute, c'est aussi comment on écoute la musique, et pas forcément ce qu'on apprend au conservatoire. Et du coup, de réunir des musiciens classiques qui avaient un peu cette envie-là de voir comment on pouvait faire de la musique en étant conscient de comment elle allait être écoutée.
Ouais. Il faut que je précise quand même.
C'est une approche novatrice.
Pour vous présenter rapidement, c'est une approche intéressante en tout cas, c'est clair. Que vous venez plutôt du sérail, de la musique classique, plus académique entre guillemets, formé au conservatoire, violoncelliste tous les deux, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Donc à l'origine plutôt dans la musique dite savante, on pourra parler de ce terme d'ailleurs parce qu'il est assez difficile. Mais vous vous ouvrez assez rapidement en fait à d'autres horizons. Jérémy par exemple, tu vas intégrer le groupe Revolver, plutôt groupe de pop en l'occurrence, qui a connu un joli succès d'ailleurs. Léo, toi aussi tu vas explorer de ton côté les musiques populaires, puis vous retrouver en fait pour justement d'abord faire un travail d'arrangement dans le milieu pop, alors aux côtés de gens comme Clara Luciani, Christine and the Queens, Dominique A, Flavien Berger, qu'on a reçu d'ailleurs dans ce podcast.
On a reçu, bien
sûr. Super épisode.
Très bel épisode.
Absolument.
Tous les autres.
Allez l'écouter aussi. Et puis, au fur et à mesure de cette expérience, vous avez envie de retourner aussi à un travail d'écriture, d'accompagnement d'artistes, mais cette fois en mêlant justement vraiment ce background classique.
C'est un peu ça le parcours, disons le processus. Il y avait un petit peu l'idée que on commençait à faire de la musique ensemble, écrire de la musique ensemble, faire des arrangements. Et c'est vraiment un métier, enfin, qui est un très beau métier, qui est noble. Et en fait, on avait eu à un moment donné, on commençait à écrire ensemble, l'idée de se dire qu'est-ce qu'on pourrait produire comme forme qui viendrait de nous, qui serait notre création, mais qui parlerait quand même de notre métier à la fois d'arrangeur et de collaboration entre plein de styles et de genres musicaux avec des musiciens assez différents. Et donc c'est vraiment parti de la première idée très naïve d'essayer d'imaginer une forme qui pourrait représenter ce qu'on est, ce qu'on fait comme type de musique, quoi. Et qui viendrait de nous et qui serait pas disons soit une commande soit un travail pour un autre artiste, mais plutôt un travail dans lequel nous on invite des artistes. Ouais. Donc c'était inverser un peu le processus classique dans lequel on était.
Et concrètement, l'équation, c'était un peu de savoir comment on pouvait faire participer tous les gens avec qui on avait bossé avant, que ce soit en musique classique, en musique pop, en musique électronique, et puis trouver un projet où dans notre rêve on pouvait demander à tout le monde de participer, quoi, et pour que ça ait un lien avec notre histoire toujours, et que ce soit pas juste une table rase. Maintenant on a une idée précise et on veut devenir des compositeurs de musique sérieuse, justement, comme tu dis, et justement de pas avoir cette vision là et d'être plutôt dans une forme de continuité. C'est à la fois une envie de renouer à quelque chose, mais en même temps d'être dans une continuité de ce qu'on a fait avant.
Bah, vous savez, ce que je vous propose, c'est que on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Ouais. On va parler de phonographie, on va parler des rapports de la musique classique avec d'autres esthétiques musicales, de votre travail d'arrangeur, etc. On va organiser ça en trois petites parties. Au début, on va justement questionner un peu ces rapports entre musique classique et musique plus populaire. Puis on parlera vraiment spécifiquement du travail sur phonographie, parce que, par exemple, je l'ai pas précisé, mais alors là, c'est une compilation entre guillemets, mais il y a trois volumes qui sont sortis où à chaque fois vous prenez le répertoire d'un compositeur précis et que vous retravaillez avec votre équipe, avec des instrumentistes aussi solistes, et puis avec quelqu'un qui vient de la musique électronique. Vous l'avez fait avec Superpose, avec Anne Blaster, avec Bachar Mahalifeh. Donc on reviendra sur cette aventure-là plus précisément. Puis on terminera, ou on discutera un peu du monde de la musique classique, parce que avec Daz, on connaît pas très bien, on a quelques clichés, il faut qu'on en discute.
Justement, je garde toutes les cartouches pour la dernière.
Magnifique, c'est parfait. Mais commençons avec cette idée de musique classique, de musique populaire. Est-ce que c'est si opposé que ça? Est-ce que, à votre sens, déjà, c'est au-delà de l'esthétique sonore en elle-même, mais des cultures différentes quand même? Est-ce qu'on peut le dire, les musiques populaires, la musique classique?
Je pense que historiquement, oui, parce que il y a l'idée enfin, dans la musique dite savante, il y a l'idée du savoir et de savoir en l'occurrence écrire et lire la musique, ce qui n'était pas nécessaire en musique populaire. Et après, moi, je crois que ça a pas trop de sens de parler de la musique classique et de la musique populaire, parce que tous ces termes-là contiennent en fait énormément de musique, et il y a pas de, c'est pas des styles en eux-mêmes, quoi. Ils sont parfois, je sais pas, les musiciens, je pense pas qu'ils aient tous, en tout cas, une manière de cloisonner les choses à ce point-là.
Et pourtant, ce cloisonnement, il existe. Donc, si ça vient pas des musiciens, ça
ouais,
vient.
Ouais, en fait, moi, j'ai l'impression, c'est une question qui est compliquée, parce que c'est une question qu'on se pose en tant que musicien.
Bien sûr,
hein. Plus particulièrement quand on est musicien classique, parce qu'on est musicien classique, mais on est aussi des gens comme les autres. Donc,
vous écoutez d'autres trucs.
On écoute d'autres trucs.
Ça alors.
S'il y a un clivage, en fait, il est pas si vieux, en fait. Je pense que le clivage, il est assez prononcé au XXe siècle. Je pense que c'est une histoire assez récente, en fait, cette espèce de dichotomie entre le monde populaire et le monde classique. Je pense qu'il y a une part, par exemple, qui vient assez fortement du fait que la musique populaire est devenue non seulement une pratique artistique, mais aussi un monde commercial, disons un monde économique, industriel, ouais. qui a un impact et une puissance qu'elle a jamais eu par le passé. Et là où, quand on regarde un peu comment vivaient les gens il y a 200 ans, 300 ans, la dichotomie entre classique et populaire était peut-être moins brutale, disons moins...
Dans la vie quotidienne, la musique dite classique était peut-être plus présente?
Je pense qu'elle était plus présente, ouais. Je pense qu'elle était plus présente quand on se refigure un peu comment les gens vivaient, je sais pas, au 19e ou au 18e, disons, les compositeurs classiques, c'était des compositeurs qui étaient connus un peu du grand public. Ouais. Je veux dire, les airs, il y avait des choses que tout le monde avait entendues.
Oui, c'était les rockstars de l'époque, en fait.
Voilà, il y a un côté comme ça. Et puis, la musique, de manière générale, était peut-être plus présente dans la vie de chaque personne. C'est-à-dire que c'était plus commun de, de chanter, de faire soi-même un peu de musique, etc. Donc j'ai l'impression que les mondes étaient plus mélangés que maintenant, où d'un côté avec le disque et puis la super spécialisation de la musique classique, on a l'impression que c'est deux univers qui se sont un peu éloignés l'un de l'autre. C'est peut-être quelque chose de récent en fait.
C'est intéressant parce que c'est un débat quasi annexe, mais que je trouve intéressant. Tu penses que la pratique musicale était plus développée quelques siècles en arrière qu'aujourd'hui?
En tout cas, plus présente.
Tu vois, moi, je pense à tous ces gosses dans leur chambre qui ont FL Studio, qui vont faire des beats, etc.
Ouais, bien sûr, bien
et
sûr,
en fait,
bien sûr.
Enfin, j'ai l'impression que la pratique est extrêmement démocratisée aussi, quand même.
C'est difficile parce que on vit pas à cette époque-là, donc c'est des images qu'on se représente. Alors évidemment, quand on dit plus représenté, on parle pas des dans des milieux quand même un peu favorisés, mais disons des gens qui ont reçu une éducation un peu des citadines, etc. C'était très commun de savoir faire de la musique, de savoir chanter, de savoir faire un peu de piano, c'est pas du tout rare, c'est devenu plus rare maintenant, je pense, d'avoir un peu cette culture au départ quand on est petit, surtout en France d'ailleurs. Mais c'est vrai que par les ordinateurs, mais cette histoire d'ordinateur et de faire de la musique chez soi, c'est ultra récent. Donc là, quand je parle de cette dichotomie, je parle
très 21e siècle en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il y a une réponse qui est en train de naître d'une espèce de fusion un peu des esthétiques de par le fait de ces moyens qui sont un peu nouveaux, quoi. Là où, tu vois, si t'étais dans les années 60, 70, bah, si t'avais reçu l'éducation, tu savais faire du piano, puis si tu l'avais pas reçu, bah, tu connaissais
rien.
Voilà. Ouais. Donc t'étais un peu largué de ça, quoi.
Mais je crois qu'il y a aussi les musiciens, enfin, ce qu'on appelle les musiciens classiques, à une époque, ils jouaient vraiment quasiment exclusivement de la musique contemporaine, c'est-à-dire de la musique de leur époque.
Ouais.
Ce qui est beaucoup, beaucoup moins le cas depuis le 20e siècle.
Ouais.
Et, faut s'imaginer qu'avant, avant le 20e siècle, on jouait uniquement la musique de son époque.
Oui, même pas de la musique classique en fait.
Ça. Ouais, il jouait pas. Enfin,
cette notion-là de musique classique et les nouvelles aussi.
Il jouait pas non plus de la musique populaire. Enfin, il se pensait quand même dans une esthétique savante. Mais il y avait pas là. Nous aujourd'hui, il y a un truc un peu en. Il y a tellement de nœuds en fait entre ce qui est contemporain, ce qui est populaire, ce qui est savant et tout ça. C'est est très très pluriel. Et à l'époque, on jouait la musique du moment quoi. Et et ceux qui s'intéressaient à la musique d'avant, c'était uniquement les passionnés. C'était la musique qui n'était pas forcément jouée en concert. Enfin La Passion selon Saint Matthieu de Bach, elle a été rejouée après avoir été composée quasiment 200 ans après. Donc c'est Mendelssohn qui est
100 ans.
100 ans.
Ouais.
Ouais. Ok. 100 ans. Bah, c'est déjà pas mal quand même. Et c'est Mendelssohn qui a décidé de tous les compositeurs s'intéressaient à cette œuvre-là, mais elle n'était pas jouée pour le public. C'est Mendelssohn qui a décidé de la faire jouer en public parce qu'il trouvait que ça avait un intérêt de faire écouter la musique d'avant, quoi. Mais il la jouait pas non plus dans le style d'avant. Il l'adaptait à leur époque. Donc il y a tout ça en fait. Moi ce que j'aime, j'arrive pas à avoir de réponse vraiment claire à ces grandes questions. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est comment elle nous inspire aujourd'hui pour faire de la musique. Et ce que j'aime, ce qu'on voit dans cet exemple de La Passion par exemple, c'est qu'elle a été jouée, elle a été adaptée pour être jouée à cette époque-là. C'était pas dans l'idée que avant c'était moins bien. C'était juste pas une question qu'on se posait à l'époque, quoi. C'est la question de jouer comme à l'époque ou d'avoir une dimension peut-être plus. C'est pas muséal parce qu'ils aimeraient pas qu'on dise ça d'eux.
Patrimoine.
Mais il y a cette notion de patrimoine, cette notion de faire être témoin de comment on vivait et tout ça. C'était pas un truc qui était à la mode à cette époque-là. C'est un truc qui arrivait plus dans les années 70.
Et si on s'arrête plus spécifiquement sur le terme classique, d'ailleurs, musique classique, c'est un terme que vous vous appropriez vous-même, que vous utilisez?
Bah, on l'utilise pas tel quel, en fait. C'est vrai que, là, c'est un peu le jargon de musicien, mais disons que, quand moi je dis musique, si je parle de classique, à un musicien, on va plutôt penser à une période très précise, en fait, qui est Mozart, Haydn, Beethoven, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle. Donc on parle plus d'une période esthétique.
Okay.
C'est vrai qu'on a un problème de terme, parce que moi j'aime pas tellement dire classique comme ça. Si je dis classique comme ça, bon, on voit de quoi je veux parler. On parle de la musique des compositeurs, en gros de la musique savante. Mais le terme savant lui-même, il est un petit peu bizarre aussi, quoi. Il est un peu embêtant. Donc on n'a pas vraiment le bon terme. Musique
à l'ancienne. Parfois, on parle de alors, c'est aussi réducteur, mais parfois on parle de musique orchestrale, symphonique, etc.
C'est encore très spécifique, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est les instruments qui sont utilisés.
Mais ça a plus de sens pour moi que quand on me dit, t'es un compositeur de musique classique, ça me paraît très étrange. Enfin, c'est vraiment une idée qu'on a dans une sorte de jargon comme ça. Enfin, c'est un terme un peu, je sais pas, galvaudé, je sais pas comment
quand
dire.
Non, c'est, je trouve ça marrant de me dire que vous, des professionnels, vous-même, vous êtes pas à l'aise avec les termes pour définir votre.
Et qu'en plus, il y en a pas un qui vous convient complètement. Ouais. C'est très bizarre.
Quand on dit musique, moi j'aime bien dire musique orchestrale, musique instrumentale. C'est un truc qui me plaît.
Ça aussi, tu vois, quand tu dis instrumental aujourd'hui,
c'est tellement vaste. Il y avait un terme pire. Hein, on a dit musique sérieuse aussi.
Ah, c'est pire.
C'est encore pire.
Donc par opposition à la musique rigolote,
il y avait ce truc d'opéra seria ou je sais pas quoi. Ça vient de là, non, peut-être.
Ouais. Enfin, c'est vrai que le classique, en tout cas la musique orchestrale, de par la logistique nécessaire pour pouvoir en profiter, faut des grandes salles, faut beaucoup de musiciens.
Ouais, bien sûr.
En fait, quelque part, ça a aussi un peu été préempté peut-être par la bourgeoisie, par...
De toute façon, on en est très vite quand Léo a évoqué l'éducation que pouvaient avoir certaines personnes, etc. Tu as dit que c'était quand même dans une certaine classe sociale,
bien
etc.
Sûr, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que en vrai... Ouais. Ok, on parle des petits qui ont craqué FL Studio chez eux, etc. Mais globalement, quand tu peux faire de la musique à la maison, c'est que généralement, le reste est déjà à peu près assuré. Quoi.
Ça, c'est vrai que c'est une chance d'être inscrit dans une école, d'avoir un professeur particulier, etc. C'est pas réservé à la bourgeoisie, mais c'est vrai que tout le monde n'y a pas accès, malheureusement.
CSP+, classe moyenne supérieure.
Ouais, alors c'est une image, faut faire attention avec ça parce que moi je sais par expérience parce que j'ai grandi dans ce milieu-là, mais disons les conservatoires en fait en France, il y en a quand même beaucoup, il y en a quand même partout. Il y en a alors ils ne sont pas tous de la même qualité, on n'y fait pas forcément les choses qu'on a envie de faire.
Il y a un effort qui est fait pour toucher.
Il y a vraiment un effort qui a été fait à la fin du XXe siècle pour vraiment amener cette pratique et la mettre à disposition de beaucoup de gens.
Mais c'est comme plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parfois sont dans leur quotidien et ne prennent pas le temps de s'informer.
Alors que tout est là.
Au niveau local, etc.
Au niveau économique, par exemple, c'est vrai qu'il y a des efforts faits parce que derrière, il y a des collectivités territoriales, etc., qui en fait donnent accès à des enfants, y compris pauvres, entre guillemets. Ouais. Mais là où tu as raison, c'est après un truc culturel à la maison de... Quel temps on a consacré à ça? Ne serait-ce qu'à amener son enfant dans une école? Si t'en as plusieurs en plus, tu veux tous les mettre à la musique, etc.
C'est sûr que la pratique musicale pour des enfants, c'est un sujet que je connais bien, parce que je donne des cours, ça demande vraiment de l'investissement des parents, une volonté, etc.
Au moins en termes de temps, tu vois.
En termes de temps,
sans parler
d'organisation,
je pense que le foot, c'est pareil.
Mais c'est plus
dans notre culture. Je pense que c'est plus un problème de culture. Enfin, je crois.
Un problème de représentation, exactement. Parce que t'as l'impression que c'est pour toi, que tu vas y être heureux, que ça va bien se passer, ou alors t'as l'impression que c'est une espèce de monde un peu à part,
qu'elle
t'a pas vraiment.
C'est
plus là-dessus, je pense, que ça se joue.
Peut-être qu'on manque d'exemples, je sais pas.
Parce qu'on a maintenant des musiciens qui. Je pense par exemple à Sofiane Pamart ou des gens comme ça qui ont vraiment une approche avec l'instrument classique, etc., et qui parlent, essaient de faire des, de créer des.
Ça donne des représentations de ce qu'on peut faire en faisant du piano de cette manière-là, quoi, en sachant lire une partition, toutes ces choses-là, ça change pas le fait que c'est long et assez chiant d'apprendre un instrument. Enfin, clairement,
il n'y a pas
l'immédiateté de splice, c'est ça, c'est comme ça.
On
veut un truc mélancolique, hop, allez, on l'a. ou un truc un peu machin. C'est sûr qu'il y a pas cette, il faut accepter qu'il y ait pas, cette immédiateté. Et je crois que ça, c'est pas, je pense pas que ce soit les gens qui soient impatients. Je pense que c'est le monde dans lequel on vit qui est impatient et qu'on n'a pas pour prendre ce temps-là, il faut se mettre un petit peu en marge quand même. Même en étant enfant, c'est pas évident, quoi, parce que il y a tout un processus de tu travailles tout seul dans ta chambre. Il y a plein de moments où tu peux travailler ensemble, mais je sais que les profs ont beaucoup de mal à trouver du temps avec leurs élèves pour travailler. Du coup, ils ont une demi-heure avec un, mais en fait, ce serait peut-être mieux une. Enfin, il y a plein de questions qui se posent de comment on apprend un instrument, comment on apprend la musique, et c'est quoi surtout le but de ça, le but pour les gens, quoi, pour le public, parce qu'avant c'était logique parce que c'était dans la culture, c'est-à-dire que c'était justement c'était peut-être réservé à une certaine caste, mais pour elle c'était très logique d'apprendre un instrument et de prendre le temps. Il y avait un investissement
de ce que t'es censé savoir un peu,
mais c'est un privilège ce temps, justement.
C'était un privilège, mais et du coup c'est l'idée de démocratiser ça. Faut trouver comment on le met dans
les
dans
ressources
le système,
pédagogiques, ouais, etc. C'est compliqué.
Il y a plein de choses qui sont faites, et puis je pense que ce serait trop violent et faux de dire que c'est qu'on cherche à réserver cette musique là aujourd'hui. Je pense que vraiment on cherche à la partager,
à la transmettre,
mais on s'entend pas. Je crois que tout le monde s'entend pas sur le sens de cette musique là et de qu'est-ce qu'il y a à transmettre en réalité.
On reviendra sur ces points, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, en fait, tu parles de chercher à ouvrir cette musique. Vous, c'est clairement ce que vous faites avec Phonographie, indéniablement. On reparlera dans la dernière partie un peu de ce monde de la musique classique, de qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour l'ouvrir d'ailleurs, ou en tout cas pour... Par exemple, avec Daz, on n'y connaît pas grand-chose.
Oh, détrompe-toi.
C'est vrai. Enfin, bon, en tout cas, j'y connais pas grand-chose, je t'avoue. On en reparlera. Grave. Mais pour terminer, peut-être sur ces questions de différence et de points communs entre musique classique, musique populaire. Alors, je pointe juste encore quelques grande différence. Je pense à par exemple, le principe de l'interprétation. Il y a quand même un rapport différent à l'interprétation, à savoir que, vous l'avez indiqué, on est sur une musique écrite, c'est quand même une de ses grandes caractéristiques. On pose vraiment sur le papier ou peu importe sur quoi, mais en tout cas une composition. Et ensuite, plein d'instrumentistes, plein de musiciens vont s'en emparer de multiples façons. Et cette œuvre va perdurer et il va en exister des centaines, voire des milliers d'interprétations. Ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas dans les musiques populaires. Pas à ce point, en tout cas.
Ouais, non, pas à ce point.
À part pour Wonderwall.
C'est pas faux.
Pour le meilleur et pour le pire.
Moi, ce qui m'avait fasciné en découvrant, parce que moi, j'étais assez vierge du monde pop et de la chanson populaire. Je sais pas comment mes parents ont fait, mais bref. J'ai vraiment jamais écouté de chansons. Je connaissais pas Hey Jude quand j'avais 18 ans. Bon, maintenant, il y a certainement des gens qui connaissent pas Hey Jude, donc ça, c'est pas un exemple.
Ah, donc toi, t'as grandi dans la musique classique.
Vraiment, j'ai écouté que ça. Et pour moi, tout le reste, c'était ce que j'entendais au supermarché. En gros, vraiment. Et puis, j'avais pas forcément de dédain, hein, parce que je pouvais bien aimer ce que j'entendais au supermarché, mais juste je n'y prêtais aucune attention, en tout cas, musicale. Et du coup, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi vraiment à pas connaître les tubes et tout ça, quoi.
Cette question d'interprétation, elle t'a marqué?
Quand Ambroise m'a proposé de monter un groupe
qui
est devenu Revolver après, du coup, il m'a fait écouter plein de musique, j'ai découvert plein de trucs, et puis surtout, ce qui m'a fasciné, c'est à quel point on identifiait le compositeur à l'interprète, c'est-à-dire que c'était la même personne, et moi, c'est un truc que je connaissais pas du tout, évidemment. Mais je me projetais vachement dans le fait d'être le compositeur que je jouais, comme si c'était un fantasme, un truc un peu d'adolescent romantique, quoi. Et du coup, de voir que c'était la manière dont il faisait ses notes, c'était pas que la composition, c'était pas que les notes qu'il choisissait, mais aussi la manière dont il avait de les faire, qui créait l'œuvre. C'est parce que la chanson était réussie, c'est-à-dire que chanté par un autre, parfois ça marche vraiment pas, quoi. Et alors que du coup, c'est ce truc de tenir sur une interprétation et sur le corps et ce qui véhicule la musique, ça m'a vachement marqué dans la pop, parce que comme moi j'avais un respect très très fort des partitions et tout ça, je me disais s'il fait bien ça veut dire qu'il doit faire toujours la même chose. Et en fait, tu l'entendais, je pense beaucoup à Lennon, parce que c'est Lennon qui m'a vachement appris ça. On entend plusieurs versions de la même chanson, c'est jamais la même chanson. Et pourtant, c'est la même chanson. Enfin, je sais pas comment dire. Mais c'est pas du tout la même partition. Et pourtant, la chanson, elle est là. Donc, c'est qu'il y a un truc qui dépasse un peu le geste purement instrumental, que ce soit de la voix ou de l'instrument. Donc, il y a des choses qu'on...
C'est plus que la technique, quoi.
Puis c'est plus que l'indication de ça, il faut jouer court et fort.
Ouais.
Parfois, t'as le même effet en jouant pas fort et un peu long. Enfin, je sais pas. Et sauf que ça dit la même chose, en fait. C'est juste qu'est-ce que je dis, et du coup c'est le sens de ce que de ce que je dis, c'est même pas hein, c'est le sens de la musique, mais c'est pas c'est, ça veut pas dire je parle d'amour ou je sais pas, c'est un sens plus profond, je sais pas comment dire, de
mais du coup toi justement quand tu joues une partition donc maintenant t'y penses
à... Bah maintenant je joue plus de partition du coup.
Ouais, voilà, réglé le problème.
Et du coup comment c'est perçu, comment tu percevais le truc toi, est-ce que c'était quelqu'un qui colle pas strictement à ce qui est écrit.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire qu'il le fait mal.
Ouais, pour moi, c'était ça. Ouais. En tout cas, quand j'avais vraiment 16, 17 ans, que j'étais un ayatollah et que, un gros nazi de ça. Vraiment, c'est, et en fait, je mettais de côté vraiment tout un panel d'interprétation et de musique, en fait. Mais parce que je voulais croire que ça existait comme ça et de manière pure et que, c'était quelque part aussi imaginer que l'humain avait peu de rôle finalement dans là-dedans, ce qui est faux.
Toi Léo, sur ce rapport à l'interprétation, parce que alors on voit qu'il y a des conceptions différentes dans la musique populaire et dans les musiques classiques, je sais plus comment dire, je suis embêté maintenant. Mais, et en même temps, mine de rien, l'idée de l'interprétation, elle peut aussi vachement ouvrir. C'est-à-dire qu'on peut se dire justement, bah peut-être que dans la musique populaire, on peut réinterpréter,
bien
justement.
Sûr, ouais. Bien sûr,
est-ce que tu l'as vu aussi toi comme ça, comme une porte d'entrée potentielle?
Moi, je l'ai perçu comme ça aussi en étant un petit qui a grandi dans la musique classique et qui découvre plein de choses, arrivé un peu à l'âge adulte. J'étais un peu plus ouvert que Jérémy quand même sur le monde contemporain.
Entre nous, c'était pas trop dur apparemment.
J'ai pas grandi dans une grotte ou dans une église, dans un couvent.
C'est vrai que ton fait tes parents, dis-nous tout. Ils t'enfermaient.
Non, vérifier un truc parce que je me fais une image mentale de ton enfance. T'avais la télé à la maison?
Ouais, j'avais la télé. Ouais.
Donc t'étais pas largué quand ça parlait de Dragon Ball?
Mais en fait, je sais pas comment je faisais en vrai parce que ouais, je rentrais chez moi et je pense que je travaillais vraiment de 18 à 21 heures. Je mangeais et j'allais me coucher.
Ok, donc
c'était ça.
Ce
donc et le dimanche matin, je regardais les dessins. Ah.
Non, mais c'est vrai que oui, sur cette expérience de, disons, de découvrir, d'être plus proche de musiciens pop ou de musiciens plus actuels, de les voir travailler, de travailler avec eux, du coup, t'as accès un petit peu à une vérité qui est un peu commune quand même finalement entre la musique classique et la musique, les autres types de musique, quel que soit leur type, mais oui, sur l'espèce d'accès à une vérité musicale. Donc c'est comme une espèce de lutte. C'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans la musique classique et les autres musiques. Une espèce de lutte pour être comme une sorte de connexion avec une vérité à la fois intérieure et puis musicale. Alors quand on vient de notre tradition classique, ça s'exprime un peu par un peu la sacralisation de la partition. C'est-à-dire que pour nous, la partition, c'est comme le dernier mot que nous a laissé le compositeur avant de mourir. On est là comme ça, on a les dernières traces et tout
c'est,
ce qu'on
c'est
a.
C'est les 10 commandements.
Voilà, c'est ça. Donc on n'a pas accès à autre chose, quoi. Et donc c'est une espèce d'archéologie de la partition. On essaie de comprendre chaque signe. Est-ce que ce truc-là était là pour
exégèse.
Voilà, c'est ça.
Mais en fait, chacun lit ce qu'il veut aussi. Donc au final, chacun s'exprime dans sa manière de lire.
Mais c'est vrai que quelque chose au début quand on a travaillé avec Indy qui s'appelait à l'époque
Dream Koala,
voilà, et on a beaucoup fait d'enregistrements avec elle et du coup de voir une musicienne comme ça qui à la fois est tellement consciente de la chanson qu'elle a écrite, la façon dont elle veut l'interpréter, et qui est en même temps à la recherche d'une vérité de la chanson alors que c'est sa chanson. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu fascinant à regarder là-dedans, et c'est quelque chose qui est difficile à, enfin c'est une expérience qui est pas facile à reproduire en classique. On n'a pas le même rapport à ça parce que nous, notre vérité, bah c'est la partition, et puis on essaie d'avoir accès à ce compositeur qui est plus là, et voilà. Donc c'est assez touchant en fait. Là on parle un langage vraiment commun entre musiciens, on parle de la même chose, on se comprend à ce moment-là, d'essayer d'être en phase avec cette vérité intérieure, quoi. Il y a quelque chose quand même.
Et la réalité aussi un peu commune, c'est quand même de devoir être entendu. C'est-à-dire qu'il y a
devoir être compris.
Il y a cette idée que la musique, elle existera. Enfin, en fait, enfin moi, je crois que c'est vraiment ce en quoi je crois beaucoup, c'est qu'elle existe que parce qu'elle est écoutée. Si elle n'est pas écoutée, elle peut pas exister ou lue parce qu'à un moment, enfin à un moment, je me disais qu'une partition suffisait.
Dieu.
Non, vraiment. Pour moi, c'était.
Bien, il assume, il nous dit tout.
Mais parce que je pense que je voyais plein de choses dans la partition. J'avais tout un imaginaire qui allait avec ça.
Et c'était l'élu, quoi. T'es néo dans la matrice.
Non, mais il y avait un peu de ce fantasme, enfin, en tout cas, de ce fantasme-là, d'avoir ce truc-là. Pourquoi je dis ça? Parce que. Merde, j'ai perdu.
La musique, il faut la partager, en fait.
Il faut la partager. Et puis, la vérité, c'est ce qui se passe. Au moment où tu la joues et au moment où les gens qui viennent te voir
la reçoivent
et du coup ça dépend beaucoup de la manière dont ils viennent te voir, ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils imaginent qu'ils vont entendre, enfin il y a plein de paramètres en fait qu'on sur lesquels on peut aussi avoir une emprise si on veut dans sa manière de communiquer, il y a plein de manières, ou de la manière d'arriver sur scène, enfin il y a plein de choses qu'on peut, le lieu où tu joues, et tout ça, moi tout ça j'y ai pensé beaucoup en faisant des concerts pop. C'est pas un truc auquel je pensais quand je faisais de la musique classique.
C'est-à-dire que toi, quand tu faisais de la musique classique, donc seul avec ton instrument.
Ouais, j'étais pas toujours seul, mais oui.
Mais en tout cas, t'envisageais pas
j'envisageais
des stades de football, t'étais plutôt musique.
J'envisageais la partition, tu vois, et en gros qu'il y avait des salles pour écouter cette musique, tu vois, je me posais pas encore des questions sur.
Si les gens sont là, tant mieux.
Ouais, voilà, c'était un peu ça aussi.
C'était vraiment la musique pour la musique.
Ouais, mais ce qui est un peu, je pense, quelque part, je pense, c'est ce qu'on m'a appris quand même, un peu. On m'a pas appris à entrer sur scène, on m'a pas appris à jouer devant des gens, on m'a appris à jouer devant un jury, si. Mais du coup, c'est encore autre chose.
On n'apprend pas la musique comme un spectacle, ça c'est vrai. Ouais. Alors que ça l'est, comme.
Alors que ça l'est, tout le monde vient l'écouter. Enfin, j'ai découvert que tout le monde venait écouter la musique comme un spectacle. C'est-à-dire qu'ils viennent pas t'écouter, ils viennent te voir, quoi.
Ouais, bien sûr.
Au début, ça m'a terrorisé.
On sent forcément de la pyrotechnie et des saltos.
Non, mais.
C'est la conscience de soi, quoi. La conscience d'être sur scène, la conscience de donner quelque chose.
Partager un moment.
Partager, de. La générosité, etc.
Et donc ça, c'est quelque chose que...
C'est un truc qui est hyper vrai en musique actuelle, en musique pop, on vient voir le chanteur.
Des fois, il y a même trop de trucs à voir par rapport à...
Ouais, mais l'idée des gens, c'est l'idée du concert aussi, je trouve.
Ils vont au spectacle, les gens, vraiment, ils veulent voir Beyoncé faire des saltos.
Oui, il y a ça, et puis t'as aussi des gens qui vont voir un guitariste folk faire ses concerts dans une cave. L'idée, c'est pas d'aller écouter les morceaux, c'est d'être avec lui. Je crois qu'il y a aussi cette idée-là. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au concert pour être avec les gens, quoi. Et du coup être avec des musiciens classiques, c'est moins, j'ai l'impression que c'est une image dans laquelle on se projette moins parce qu'elle est moins représentée et tout ça, ou quand elle est représentée on se sent très loin de ça, enfin je veux dire, il y a des images de la musique que je vois à la télé que je trouve horrible vraiment, clairement, esthétiquement, et je comprends très bien pourquoi les gens se reconnaissent pas là-dedans, enfin je me dis tant mieux pour eux.
T'as des exemples?
Non, j'ai pas d'exemple, je pense que les gens comprendront, je crois pas les Victor, bref. Mais je me dis juste que en fait la musique classique, moi, c'est pour ça que je dis c'est pluriel, c'est qu'il y a plein de musique parce qu'il y a déjà plein de répertoires. Déjà en termes de partitions, il y a beaucoup de partitions, et puis en termes de personnes et de niches de musiciens et de musiciennes, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Autant qu'en musique indé, c'est très très riche, et je crois qu'il faut essayer de pas essentialiser les choses, quoi, en gros, et de se dire que c'est, il y a un monde en fait à découvrir, quoi.
Pour revenir à ces idées, cette fois de lien entre musique populaire et musique classique, on peut peut-être partir de vos expériences à vous. Et Léo, peut-être que tu peux nous en parler.
Ouais.
Comment vous vous retrouvez à faire de l'arrangement? Alors, je citais tout à l'heure Clara Luciani, Christine the Queens, des gens comme ça, qui sont des idoles pop en France. Est-ce que, justement, on fait appel à vous parce qu'on a besoin de ces compétences, entre guillemets, liées à la musique orchestrale, etc.?
Je pense en partie, oui. On est quand même pas mal d'arrangeurs, avoir un profil qui se ressemble un peu, mine de rien. C'est-à-dire, moi, ce qui me concerne, donc j'ai cette éducation qui vient de la musique classique. J'ai aussi fait du violoncelle. Et puis, je me suis plus spécialisé dans l'écriture, l'arrangement. Donc, ici, avoir vraiment avec la composition, écrire pour des instruments, etc. Et en fait, je pense que quand on a commencé à travailler ensemble et qu'on a commencé à faire des arrangements, le fait d'avoir cette maîtrise ou cette culture classique, ça te donne quand même accès à certaines facilités d'écriture, le fait de trouver des harmonies, le fait de d'avoir des solutions pour arranger quelque chose, voilà, que ça te donne quand même accès
t'as des trucs et astuces en fait pour...
C'est pas des trucs et astuces, mais disons que
des réflexes.
Non, mais t'as disons une, oui, il y a des réflexes d'écriture. Il y a une oreille clairement qui a été travaillée, c'est-à-dire quand t'es dans cette musique-là et que tu travailles ton oreille depuis que t'as 6-7 ans, bah, dire oui, tu vas un peu plus vite, t'as un peu des idées, t'as un peu des... Et puis t'as un répertoire, c'est-à-dire si t'as du Bach, du Mozart, du Schubert dans les oreilles, en fait, tu vas avoir des idées que t'auras pas si t'as... C'est normal, commencer de la musique tout seul à 18 ans, en faisant des choses, tu vois, je veux dire, tu vas avoir d'autres
idées, mais pas pour orchestre et pas avec ce son-là, en fait, voilà. Pas cette image-là.
Est-ce que tu peux d'ailleurs juste, parce que je pense que c'est important de préciser, en quoi consiste l'arrangement? Je pense que c'est pas clair pour tout le monde.
Ouais, bah écoute, ça peut consister en plein de choses.
Ouais. Le truc le plus classique qu'on voit...
Ouais, typiquement, la situation dans laquelle on est très souvent quand on est arrangeur, c'est qu'on nous envoie une chanson, mettons une chanson piano-voix, guitare-voix ou même plus d'instruments, et quelqu'un voudrait avoir un quatuor à cordes pour accompagner ça, et donc on va ajouter une partie de la musique qui n'est pas forcément là au départ, mais qui va accompagner en essayant de faire en sorte qu'on ait l'impression que ça avait toujours été là, que ça avait été pensé pour, etc. Donc à la fois on va ajouter des choses, on peut aussi proposer de réarranger la musique, c'est-à-dire
ça nécessite un peu d'autres aménagements,
d'enlever un instrument ou même parfois de changer un peu la structure du morceau, ça peut arriver. Donc faire des petites adaptations, proposer des nouvelles couleurs, des nouvelles harmonies aux chanteurs. Donc il y a plein de...
C'est marrant parce que, point de vue là, je me place vraiment en public béotien. Nous, quand on consomme, en fait, quand on se retrouve avec une chanson arrangée pour, par exemple, un quatuor à cordes, c'est principalement pour le spectacle. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une Star Academy ou une Nouvelle Star avec Julien Doré interprète son tube, tu vois, et puis là, tu vas avoir des cordes sur scène. Et en fait, c'est clairement pour la partie spectaculaire du truc.
Ça, voilà, ça c'est là où on entend le plus le travail de l'arrangeur, enfin où il est le plus évident parce que justement, on peut comparer entre guillemets la version originale et la version arrangée.
En fait, la question c'est est-ce que il y a un intérêt pour la personne qui demande l'arrangement à avoir l'arrangement tel qu'il est fait avec du classique sans avoir la contrepartie visuelle, c'est-à-dire pouvoir justement avoir un ensemble derrière le chanteur.
Ça dépend du projet, en fait.
Du chanteur, C'est-à-dire, il y a des gens qui disent
je veux un arrangement classique, mais uniquement pour l'écouter chez moi, j'ai pas du tout envie de faire de tournée, pas de scène, pas de...
Non, il y a des, disons que il y a très souvent le côté, on va mettre des cordes sur scène, et ça, c'est le côté un peu triste, parfois, en fait, de l'idée, quoi. C'est-à-dire, on est là, on a juste envie d'avoir des gens en costard derrière, pour faire un peu genre, enfin voilà.
Ça,
c'est un peu triste, mais disons que ce qui est intéressant, c'est quand il y a un projet artistique derrière, c'est-à-dire que dans la conception de l'album ou dans la conception de la chanson, en fait, l'auteur, il a cette idée, il sait qu'il a envie d'avoir une couleur classique qu'il est peut-être pas capable de faire lui-même ou d'avoir même quelque chose qui va proposer, disons, une espèce de variation ou un contraste par rapport à sa musique, et du coup il va proposer cette collaboration. Donc là parfois on est presque dans la co-composition dès le départ.
Sur Flavien Berger par exemple, il y a la pièce Dans 100 ans sur le dernier album, on a fait
qu'on a écouté d'ailleurs.
Il y a toute une partie acoustique avec des bois, des instruments, des flûtes, des hautbois, bassons et tout ça. Et Flavien, il avait une petite partie de piano là, typiquement, avec parfois des voix qui chantonnaient des trucs. Et il disait voilà, j'entendrais bien ça, mais avec des instruments avant et tout. Et nous, il nous envoyait ça.
Ouais.
Et il fallait qu'il y ait plus du tout ces voix, plus du tout le piano, et puis juste des instruments acoustiques, un petit orchestre de chambre, quoi.
Dans ce cas précis, c'était à la conception même du morceau.
C'est là où moi je suis hyper content quand quelqu'un comme Flavien vient nous voir, parce qu'il vient nous voir parce fort de tout ce qu'on a déjà fait avec lui, évidemment, de ce qu'on a fait avec d'autres. Et du coup, c'est aussi considérer l'arrangeur comme un artiste et pas que comme un truc du métier,
comme,
du business,
oui, comme qui peut être un filtre dans lequel on passe le morceau après coup,
Peut être super et nécessaire, et parfois enfin ça existe, et ça, si ça existe, c'est que ça doit
exister.
C'est
logique, ça existe, c'est pas.
Et mais nous ce qu'on essaie de véhiculer un peu, c'est de se positionner en tant qu'arrangeur, mais avec une vraie proposition esthétique, une vraie collaboration, et de qu'on vienne pas nous chercher pour un truc de métier.
Ce qui est très excitant, pardon, je prolonge juste sur ce truc-là, quand t'es sur ton ordi ou au piano, ce qui est très excitant, c'est, pour l'arrangeur, c'est quand t'as l'impression d'avoir trouvé une autre musique qui était pas dans la chanson originale ou dans le morceau original, mais que le morceau original appelle d'une certaine manière. Et quand tu la poses et que tu la fais écouter à la personne, l'impression qu'en fait elle était un peu intrinsèquement là, et que toi tu l'as entendu, mais que
c'est vraiment la dévoiler, en fait
c'est la dévoiler, et montrer qu'en fait elle appartenait un peu à la pièce originale. C'est de faire entendre qu'elle est naturelle, c'est pas un truc que t'as posé pour faire joli ou pour ajouter du son, etc., mais que t'as dévoilé une partie de la pièce qui était là, mais qui avait pas été montrée, quoi. Mais c'est très agréable,
c'est intéressant, mais dans
En musique actuelle, en pop, et dans tous les gens qui font du studio, en gros, qui travaillent la production, il y a toujours l'idée d'inviter un musicien pour le faire créer, pas forcément, on lui a pas forcément écrit sa partie de guitare. Ouais. Bah, nous, c'est un peu la même chose.
On participe à la
proposition artistique. Et
je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément conscient de la part du public.
Ouais, bien sûr.
Même par des gens qui écoutent de la musique, tu vois, parce que moi, j'écoute beaucoup de musique aussi, et c'est vrai que quand on me parlait arrangement, moi je voyais ça vraiment comme, tu vois, le portage dans le jeu vidéo, c'est-à-dire ton jeu il sort sur PS4, hop, t'as une équipe qui passe le jeu plutôt, pour qu'il marche sur Xbox, tu vois.
C'est juste une adaptation, quoi.
Ouais, voilà, d'accord.
Mais par exemple, il y a cette idée de pouvoir proposer de la musique ou une musique cachée, qui un guitariste ferait la même chose. C'est juste que nous on a des outils qui sont pas les mêmes, et que je pense que l'image de l'arrangement pour cordes ou pour orchestre, on a toujours eu l'idée que c'était un peu conventionnel et scolaire, et qu'il fallait surtout pas y mettre trop d'affect, parce que sinon ça allait être border, c'est des gens qui ont pas de goût, quoi, en gros. Et je crois que, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on voulait véhiculer comme idée, c'est de se dire qu'on pouvait, en faisant des arrangements, proposer des choses qui étaient en lien avec le projet, et c'est juste dans une volonté de collaborer. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de positionnements d'arrangeurs, peut-être à une certaine époque, qui se positionnaient justement au-dessus, en mode, je sais lire la musique, toi tu sais pas lire la musique, tu vas pas m'expliquer ton accord, hein. c'est un sol mineur. Que le si bémol il soit là ou là, ça change rien, et ton filtre, j'en ai rien à foutre. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont fonctionné comme ça. Et d'ailleurs, je pense que le résultat de ça, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie gêne dans les moments de collaboration au départ, entre ces différents musiciens qui, quand ils se connaissent pas, il y a une peur, quoi, mais des deux côtés, hein, des gens qui disent, ouais, ils lisent la musique, putain, ça marche tout de suite, ils lisent la partition, ça marche tout de suite, ils sont fascinés, et puis d'autres qui sont fascinés juste parce que le mec a juste un feeling de, il a envie de faire ça, il l'a pas décidé, il le joue, quoi, ils sont là, ouais, lui, il a pas de partition, comment il fait? Enfin, vraiment, c'est incroyable, j'ai eu des disques, enfin, c'est ça qui est super avec le métier qu'on fait, et puis les zones où on évolue, c'est qu'on, on voit des gens qui s'auto-admirent, en fait, et ils le savent pas, et j'ai l'impression que notre rôle aussi, moi j'ai l'impression que souvent mon rôle d'arrangeur en studio, c'est déjà de traduire en mots à peu près, et en notes ce qu'ils se disent, donc d'être vraiment un traducteur, et après aussi de montrer qu'en fait ils peuvent se dire qu'ils s'admirent, et qu'ils trouvent ça génial ce qu'ils font, alors que les autres disent ouais, mais non, mais là j'ai juste rien fait, l'autre dit non, là, j'ai juste lu, tu vois. Mais c'est juste, il y a une sorte de dénigrement
On a tendance à opposer souvent dans plein de corps de métiers différents, d'ailleurs, la technicité et la créativité, sous-entendu. Ouais. Si tu connais trop la technique, du coup, t'as moins de créativité parce que
c'est toujours l'interaction.
Bah oui,
souvent dans cette émission.
Mais c'est vrai que dans tout.
Ouais, ça dépend des gens, hein, parce qu'il y a des gens qui vont être très, contrôle fric. Une fois qu'ils ont la technique, il faut que tout soit comme ça. Et puis c'est la musique. Du coup, ça enferme la musique.
Bah, ça l'enferme, ouais,
c'est ça. Et puis il y en a de l'autre côté, je pense, qui font l'extrême inverse et qui finissent par toujours faire la même chose parce qu'ils ont toujours les mêmes réflexes.
Ouais.
Et puis t'as tous les autres qui, je pense, sont quand même la majorité, hein, et qui essaient de progresser, en fait, qui naviguent, ouais, et on progresse. Et je crois que tout est un frein à tout, et tout est une porte ouverte pour avancer, quoi.
Les gars, avant qu'on passe à la seconde partie, est-ce qu'on pourrait se mettre un extrait d'un morceau pop auquel vous avez collaboré en tant qu'arrangeur? Peut-être pas dans 100 ans, parce que je renvoie nos auditeurs à l'épisode avec Flavien. On avait écouté le morceau, on en avait parlé, etc.
On peut écouter.
Et peut-être un autre morceau.
Eh ben, on pensait à un disque auquel on a participé il y a 2 ans, qui s'appelle La Porcelaine de Limoges, de Nicolas Maury. Et c'est Olivier Marguerie, qui est aussi lui-même arrangeur, et qui a produit ce disque.
Ok.
Qui nous a demandé de venir justement arranger un peu tout l'album pour des cordes. Ils avaient envie de cordes, mais ils avaient envie de cordes un peu complexes, qui soient assez filmiques, qui fassent référence à peut-être à Hitchcock, et à des choses, peut-être des choses plus début 20e aussi. Et donc nous, sur le papier, on se dit cool, enfin tout le monde nous demande ça, et à chaque fois on fait des nappes, donc voilà. Donc on se dit vas-y, on tente, là on fait vraiment, on y va, on met des caisses et tout sur tous les chromatismes et voilà. On se dit ça passera pas, mais bon, c'est pas grave, au moins on leur a tenté. Et en fait, on a eu une réponse de Nicolas qui était genre vraiment, j'ai jamais eu une réponse à une V1 aussi belle, quoi. C'était un mail, c'était des kilomètres de mail pour dire combien on magnifiait ce disque, et comment ça exprimait exactement la sensibilité de ce qu'il imaginait, même de ce qu'il osait pas imaginer. Enfin, c'était très beau.
Et je reconnais sur la pochette Nicolas Maury, donc qui est acteur en parallèle, et qui joue dans 10% notamment.
Il joue dans 10% notamment, ouais.
Je reconnais maintenant. Très bien. Donc c'est le morceau Prémisse.
Prémisse, ouais, qui est l'intro de la première chanson, quoi.
Qui s'appelle Promesse.
C'est parti ?
Ouais.
Yes.
Allez.
Que cet instant, je m'en souviendrai.
C'est cool,
c'est joli comme tout ça.
C'est super cool.
Ouais. On était très très heureux de cette collaboration.
Donc là, parce que en fait, on parlait d'arrangement, mais donc concrètement, vous avez carrément créé l'intro.
Là, pour le coup, on est dans une position d'arrangeur, mais c'est de la composition pour l'introduction. Et puis après,
vous avez fait l'arrangement du morceau.
Voilà,
on
a retravaillé aussi sur les cordes. Il y avait des idées d'Olivier Marguerie qui a écrit les chansons, et qui sont pas toutes, mais beaucoup, qui sont très belles et très inspirées. Donc voilà, c'était une super collaboration, et c'est vraiment ce que ça peut être de mieux, l'arrangement, à ce moment-là, parce qu'on est très libre. Voilà, on peut participer, on peut proposer des choses.
Oui, vous êtes vraiment force de proposition.
C'est de se dire vas-y, on crée un lieu où on peut s'exprimer, quoi. Et c'est aussi ça, en fait, c'est de trouver quand l'artiste désire ça, de
ça part beaucoup de là, en fait. Ouais,
bah ouais, c'est que
l'artiste est clair sur pourquoi est-ce qu'il veut des cordes. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire pourquoi, à quoi ça sert vraiment de ramener des cordes dans une chanson. Faut qu'il y ait une intention artistique derrière.
Ça soit pas
derrière,
juste pour la galerie sur scène. Faut vraiment que ça réponde à un besoin de l'auteur, en fait.
C'est ça. Et ce désir-là, je pense qu'il se stimule aussi par ce qu'on écoute, la proposition qu'on peut faire en tant qu'arrangeur et tout ça. Et je pense que de toujours essayer de proposer aux artistes de faire des choses ensemble. Je pense que c'est une manière de d'ouvrir les imaginaires, en fait. Et je crois beaucoup aux collaborations et aux rencontres. En fait, que les musiciens se rencontrent d'autres musiciens, d'artiste à artiste, en fait, et qu'ils se re-rencontrent après dans d'autres profils, et qu'on soit pas juste des gens payés pour faire des violons, quoi. Enfin,
justement, donc vous avez ce besoin de vraiment collaborer avec l'artiste.
Ouais.
Donc de rentrer dans son univers aussi, peut-être d'apprécier ce qu'il fait. Est-ce que ça vous arrive de vous retrouver justement juste en poseur de violon pour un truc où c'est clairement pas votre...
On essaie justement de plus le faire.
On essaie d'éviter, on essaie d'organiser notre vie et notre parcours pour pouvoir avoir le choix. C'est pas facile, hein, parce que...
Il faut penser à bouffer.
Mais ce projet-là est pas destiné à ça. C'est-à-dire que nous, on a créé Code pour avoir justement une sorte de vitrine artistique, et c'est comme une charte. Moi, au départ, je le pensais vraiment comme quelque chose de, c'est les artistes qui viennent chez nous, quoi. Ce qui s'est passé, c'est plutôt l'inverse pour commencer, mais moi j'y crois encore qu'on puisse organiser des, les toutes premières sessions qu'on avait faites il y a longtemps au studio Saint-Germain, c'était l'ensemble instrumental qui était là, installé pendant 2 ou 3 jours, je sais plus, dans le studio, et c'est les artistes qui défilaient. C'était un peu comme une sorte d'émission de télé, mais sauf que le protagoniste, c'est
l'orchestre.
C'est l'orchestre, et c'est de trouver des manières de présenter ça, de présenter l'orchestre, de pas juste se dire c'est le truc un peu bling bling pour la télé, et de véhiculer une nouvelle image de ça. Et c'est pour ça, je crois qu'on est, je pense, plus qu'arrangeur au sens que le projet, il y a cette partie arrangement, il y a une partie plus créative, il y a une partie de projet global artistique. C'est pour ça qu'on crée ce disque, on veut faire un livret, on pense à plein de choses.
On en parle alors, passons à cette deuxième partie, on va parler de phonographie. Alors je le disais, là ce que montre Daz, donc c'est une forme de compilation entre guillemets, enfin qui réunit les 3 volumes déjà sortis. Chaque volume, alors je sais même pas dans quel ordre est-ce qu'on le prend. Chaque volume est dédié à un répertoire, à un compositeur, une pièce d'ailleurs précise.
Une pièce précise
de ce compositeur. Quels sont d'ailleurs les 3, parce que donc 3 volumes, quels sont les 3 compositeurs?
Marin Marais, Brahms et Debussy.
Et donc l'idée, c'est on prend ces gens-là, on prend leur répertoire. Et on va essayer de se le réapproprier, d'ouvrir avec un artiste électronique, on l'a dit. Et c'est un peu votre truc où vous disiez, accueillir un peu avec vous les gens, quoi. Vous êtes allé au bout de votre idée, c'est-à-dire, on veut plus seulement faire les arrangeurs, c'est, ok, on prend une base, venez à nous et ensemble on élabore un nouveau truc. C'est un peu ça l'idée?
C'est un peu de montrer.
C'est des artistes extérieurs qui arrangent votre morceau finalement.
Mais en même temps, nous, on arrange le morceau de quelqu'un qui n'est plus là.
Le truc qui exprime bien ça, c'est le fait qu'il y ait 3 mouvements. C'est-à-dire que chaque volume, chaque EP, en fait, on peut le voir comme ça, un EP, un petit album. Dessus, il y a 3 morceaux, entre guillemets, 3 mouvements. Et il y a une démarche très spécifique, quasi pédago, en fait, pédagogique. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'on comprendra mieux, effectivement, cette histoire de réinterprétation.
L'idée qu'on avait, c'était, de pouvoir présenter notre travail et notre héritage à la fois classique et notre maîtrise d'arrangeur. Donc, on a essayé de faire une forme qui représente ça. Le premier mouvement de chaque disque, c'est l'enregistrement d'une pièce du répertoire classique. Une pièce de Marin Marais, une pièce de Brahms, une pièce de Debussy. Donc sans ajout, juste la pièce telle qu'elle est.
La pureté de la partition.
Elle est respectée, Jérémy, t'es content?
Parce que c'est pas que ça, justement.
La deuxième piste du disque, c'est notre version de cette pièce-là orchestrale.
D'accord.
Donc, c'est une interprétation de cette première piste.
Et quand tu dis, donc c'est vous, Code.
Code, ouais.
Avec les instrumentistes et musiciens qui vous entourent.
Voilà. On crée une pièce en studio. Enfin, on écrit des partitions avant. Une sorte de moyen de pouvoir travailler tous ensemble en studio. Et après, on a passé, je sais plus, 4 ou 5 jours avec une quinzaine de musiciens et à chercher des sons, à jouer partie par partie, à faire des collages et tout ça, et à créer une pièce qui vient de la première pièce, mais qui n'est pas celle-ci, qui est plus celle qu'on imagine derrière, justement.
C'est une forme d'inspiration, le...
Bah ouais, en fait, disons, il y a... Les trois pièces sont différentes par rapport à ça. Disons, les trois versions, les trois volumes sont différents par rapport à ça. On pourrait dire c'est de l'orchestration. C'est un terme qui existe. Hein. C'est-à-dire, tu prends une pièce pour piano, pour guitare, que sais-je, et t'en fais une version orchestrale. C'est ce qu'on appelle une orchestration. L'idée qu'il y a derrière l'idée de l'orchestration, c'est de faire une pièce qui ressemble à l'original. C'est-à-dire que c'est comme la version de piano mais à l'orchestre. C'est une espèce de multiplication du truc, quoi. Ce que nous on a fait, il y a des passages qui ressemblent un petit peu à ça. Il y en a d'autres qui sont plutôt j'essaie de prolonger à l'orchestre quelque chose qui est dans le piano mais qui n'était pas vraiment là, donc c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure dans l'arrangement. Et puis il y a aussi carrément des choses où notre pièce d'orchestre est fait comme un commentaire de la pièce originale, donc c'est plus du tout la pièce originale en fait, mais elle crée une sorte de décor pour la pièce originale.
Mais ou tu alors, retrouves des motifs dedans quand
tu
même,
retrouves des motifs, voilà. Mais t'en fais un, elle a un aspect qui ressemble plus du tout à la pièce originale, tu vois.
Donc il y a un peu un côté Kali un peu de toutes les idées qui sont dans la première pièce mais qui sont mises à plein d'endroits différents et puis tu les retrouves à tel instrument et tout.
C'est comme si tu vois ta première pièce originale, c'est un petit puzzle de 10 pièces comme ça, tu les balances sur la table et puis tes 10 pièces t'en fais un énorme machin voilà, donc tu réarranges,
donc les 10 pièces sont là mais
dans un ordre différent ailleurs voilà,
donc tu crées une sorte entre les pièces.
C'est ça,
et du après coup, arrive ce troisième mouvement.
Le troisième mouvement, du coup, au départ, on avait l'idée que ce serait bien un remix. On oubliait ce terme-là au départ, parce qu'il y a un terme qu'on n'emploie plus du tout maintenant. Mais disons qu'on voulait inviter des musiciens électroniques, électroniques ou pas d'ailleurs, mais disons que les musiciens avec qui on travaillait à ce moment-là, donc c'est un projet assez amical en fait, et les inviter pour faire une troisième version du travail qu'on avait fait jusque-là. Et dans l'idée, c'était de leur donner les pistes orchestrales, donc ce qu'on a fait en studio. Donc c'est pour ça qu'il fallait le faire après.
Votre interprétation de tout
notre,
ça.
Notre interprétation, on prend les bandes, on fait une 10, 15, une vingtaine de stems, et puis on donne ça au musicien qui va après en refaire lui une pièce à partir de là.
Je comprends l'idée de remix initial. Voilà, effectivement, on file les pistes, t'en fais quelque chose.
Les pistes, tu te débrouilles, voilà. Mais en fait, c'est plus à la fin, ce qui se passait, c'était plus, disons, une troisième pièce qu'on faisait avec lui aussi, parce que c'est vrai que tu donnes ça à un musicien, c'est quand même beaucoup de musique, donc c'est quelque chose qu'on faisait un peu ensemble et dans l'idée de faire une troisième pièce originale mais en partant un peu du matériau qui était disponible, mais bon, sans se donner forcément les contraintes spécifiques de faut utiliser que l'orchestre ou quoi que ce soit. Parfois il y a des synthés en plus, parfois il y a des Bachar il a fait des prises de piano, donc c'est très libre, mais c'est l'idée de comme du tu sais, le cadavre exquis, tu vois, où tu rajoutes une phrase en rajoutant un mot, comme ça, chacun son tour. En fait, on pourrait continuer comme ça le processus, mais c'est l'idée.
Ça veut dire que l'artiste invité, lui, il bosse pas du tout sur le morceau vraiment original, pur, initial.
Au départ, on se disait non, c'est bien s'il part que de l'orchestre, et puis en fait, ils nous ont demandé, ils avaient envie du coup, petit à petit, c'est devenu. On invite quelqu'un sur la troisième plage de notre disque. T'as la phase B, t'as 20 minutes si tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ce qu'on a enregistré? Fais ce que tu veux, quoi, en gros.
Et puis aussi dans l'idée de travailler avec des gens qui font des disques. Tu dis musique électronique, mais les gens qu'on appelle, c'est que des gens qui font des disques pour eux et du coup qui pensent le disque. C'est-à-dire qu'ils sont qui sont attachés à l'enregistrement, à la manière dont on enregistre et à la manière dont on conçoit un disque. C'est ce qu'on faisait un peu en pop dans les années 60-70. Et cette idée de créer un objet, quoi, qu'on va écouter chez soi ou pas d'ailleurs, mais et du coup de créer une sorte de continuité. Donc il y avait une forme de les inviter à dire voilà, nous on a ça, ça commence comme ça, comment il faut que ça finisse, quoi.
Ouais, en plus ce qu'il faut dire, c'est que très souvent ce troisième mouvement, donc celui de la réinterprétation de ces artistes invités, accompagné aussi par vous, etc., par l'orchestre parfois. Mais souvent, c'est d'ailleurs des morceaux beaucoup plus longs, où ils reprennent toute cette matière. Et j'imagine que vous en avez tellement de matière qu'ils voulaient raconter quelque chose
C'est aussi leur temps. C'est-à-dire que c'est des musiciens qu'on a appelés qui sont dans un temps de musique différent. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment un truc qui est assez vrai, de, en tout cas sur la manière dont on, même si on a une image que les symphonies sont très longues et tout ça, la manière dont les choses se développent, elles se développent très très assez rapidement, elles se développent beaucoup. Mmh. Et alors que les musiciens, en tout cas qu'on a appelés, ils développent une idée lentement.
Plus ambiante,
voilà, il y a un truc, il y a un truc plus ambiant qui est beaucoup plus d'aujourd'hui, je pense, dans le rapport au temps, ce qui est bizarre parce qu'en fait, on est dans une société qui avance à 1000 à l'heure, mais le rapport à la musique instrumentale, la musique acoustique, et surtout la référence à la musique classique, souvent la musique classique elle a volonté de discourir, de raconter quelque chose, quoi, comme si même si on sait pas quoi, mais on a l'impression qu'il y a un truc qui avance, qui progresse,
d'où l'idée, dès qu'on entend un truc, dire, oh, ça fait très cinéma, très cinématographique,
voilà, souvent ce thèse, ce genre de truc, il y a le méchant, le gentil qui arrive, enfin, on peut raconter une histoire avec ça, j'arrive à raconter une histoire à mon fils avec le concert de Tchaïkovski, mais c'est sûr que sur une autre musique, on est plus sur un climat ou quelque chose qui va nous habiter et un lieu où on va se mettre, un lieu sonore. Et je pense que c'est cette conception-là qui fait aussi le disque. L'idée de créer un lieu sonore, un lieu où on est bien comme...
pure progression pour la progression et de dire on s'arrête là et en fait on fait tourner le truc et...
Il y a cette idée-là et je pense que ça a à voir aussi avec l'idée de fabriquer un disque. Je pense que l'amour de ça, il se situe au même endroit. C'est-à-dire que d'aimer figer le son et pas les notes.
Donc ça veut dire que concrètement, l'artiste invité... son rôle, c'est de finir votre disque.
Ouais, c'est ça. Vous avez la flemme.
Non, mais on lui pose une question et c'est ça, moi, j'aime bien. Enfin, je crois que là, on travaille sur un podcast en ce moment sur les phonographies et avec une musicologue et on se rend compte aussi de ce qu'on veut dire avec ça en tant qu'artiste. Et je pense qu'il y a aussi l'idée de dire qu'on fait jamais quelque chose de vraiment fini. On fait toujours quelque chose qui est amené à, ne serait-ce qu'à être écouté, à être paraphrasé, ou même juste le fait que quelqu'un décrive notre disque pas du tout comme on le décrirait, quelque part c'est une manière de le prolonger. Et j'aime beaucoup cette idée-là, cette idée que on propose quelque chose qui en devenir toujours, et qu'une œuvre en fait elle est jamais finie.
Et ce qui peut d'une certaine manière être paradoxal, parce que le geste aussi du disque, c'est un moment de dire je m'arrête.
C'est
là.
Fini.
Mais ouais, c'est dur, hein, c'est très dur.
Mais c'est une sorte de faute, c'est une photo d'un instant. D'un instant. Ouais. Et en fait, c'est juste, faut pas considérer que le disque, c'est pas un objet fini. Enfin, je sais pas comment dire.
Non, mais je comprends.
À partir du moment où il va être écouté dans un cadre ailleurs que là où on avait projeté qu'il soit écouté, il va prendre un autre sens. C'est avec Gab qu'on parle. Je sais plus, il citait quelqu'un, je sais plus qui.
Superpose.
Il dit, c'est Bresson, je crois, qui disait que créer, c'est pas forcément inventer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi mettre des choses ensemble qui existent déjà et elles se sont jamais rencontrées et ça crée quelque chose, ça crée, on y lit autre chose, on y voit, on regarde chaque chose très différemment et
c'est marrant parce que c'est presque l'approche du sampling là qu'on entend, de prendre des trucs qui étaient pas faits pour ça et d'en faire autre chose.
T'as complètement raison et d'ailleurs en réalité c'est comme ça que souvent naissent les mouvements musicaux, les renouveaux, etc. Ils sortent jamais de nulle part.
C'est mixer des trucs qui étaient pas prévus.
C'est quand même ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a jamais d'illumination comme ça qui descendrait du ciel de j'ai un nouveau truc. On s'inscrit tous dans une histoire, etc. Mais qui se mêle à une autre et puis parce qu'on a aussi un regard propre et tout, ça donne un truc, quoi.
Et je crois que nous, ce qu'on dit, c'est que le mot grossier musicien classique, contient aussi ça. Enfin, ça nous empêche pas de participer à ça. Et c'est juste de se dire qu'on n'est pas que musicien classique, en fait. Mais comme Superpose n'est pas que musicien électronique, c'est la nécessité d'aujourd'hui de devoir mettre des cases pour que les gens soient sûrs de ne pas perdre leur temps. Et on en revient encore au fait de pas avoir le temps.
On commence à comprendre le message.
Je fais pas exprès, hein. Mais je pense qu'il y a cette idée d'efficacité, de rapport à la production, à la productivité qui rend complexe l'idée de la complexité.
Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute quand même des extraits. On pourrait commencer avec le premier volume, Phonographie volume 1, donc autour de Marin Marais. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas.
Pas du tout.
Marin Marais. Okay. Autant de Bussy, Brahms, ok. Marin Marais, pas du tout.
Brahms, c'était le mec qui rappait avec Booba. Là. Ça s'écrit pas exactement pareil.
Oui, tout à fait. C'est lui.
C'est lui, bien sûr.
On pourra d'ailleurs, après, parler du choix du répertoire, peut-être brièvement d'ailleurs de ses compositeurs. Mais déjà, pour illustrer tout ce dont on vient de parler, ces trois mouvements, etc., on commence avec ça. Là, petit extrait. Premier mouvement, donc première piste de l'EP, c'est donc l'interprétation à partir de la composition originale. On essaie de la respecter, entre guillemets.
C'est ça.
On est d'accord.
Ouais, c'est ça.
Et on est sur le Jérémy hardcore.
si on veut.
Et l'instrument pour lequel ça a été composé, c'est ça que
exactement, c'est ça que j'allais dire.
Allez. Sur quel instrument, justement?
Là, on est sur de la viole de gambe.
Ah, de la viole de gambe.
Ouais, viole de gambe. Alors, Marin Marais, c'est un compositeur qui est du début du XVIIIe siècle. En gros, c'est Louis XIV. En gros, c'est musicien de la cour de Louis XIV. La viole de gambe, si on a envie de se faire une représentation, c'est un peu comme le violoncelle. Mmh. Ça ressemble pas mal. C'est un peu les mêmes dimensions. La forme de l'instrument est un peu différente, mais ça ressemble pas mal. C'est un peu comme le violoncelle, sauf que c'est un peu plus de cordes. Surtout, ça a des frettes. Comme des frettes de
comme
guitare.
Une guitare voilà. Base, ouais, okay.
Et du coup, ça crée quelque chose un peu dans la façon dont les notes sont jouées.
Donc, juste pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la délimitation de cases, si vous voulez, sur le
comme
manche.
Comme sur une guitare.
Fait.
Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ça crée quelque chose de particulier dans le son. Le son est très, très fin. En plus, là, les cordes sont des cordes en boyau. C'est pas des cordes en plastique. Donc, il y a quelque chose de très, très,
Et on est sur six cordes, d'ailleurs, comme une guitare aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il me semble que c'est ça.
Incroyable, Salman, t'as fait des devoirs.
Je savais pas, hein, j'ai regardé avant l'émission. J'ai fait mes devoirs.
Ce qui est sympa, c'est que Marin Marais, dans notre imaginaire de musicien, ça ressemble un peu à un musicien comme maintenant, c'est-à-dire que c'était lui-même un gambiste, quelqu'un qui jouait de la viole de gambe, c'était son métier de jouer. Et donc, il écrivait des pièces et il les jouait, il les publiait, donc il jouait sa propre musique et donc ça ressemble un peu à un musicien actuel d'une certaine manière.
Pourquoi vous aviez envie de lui rendre hommage, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de le mettre en avant, de se réapproprier son répertoire.
Il y a l'idée aussi de mettre en avant un instrument. Ouais. Et c'était aussi, au départ, les phonographies, il y avait aussi cette idée un peu de timbre, c'est-à-dire de partir d'un instrument soliste qui se développe dans un orchestre et qui se développe ensuite dans toute la possibilité qu'offre le studio. Et d'avoir une sorte de parcours comme ça, d'un individu à un grand ensemble. Un grand ensemble d'individus à un autre individu qui finalement revient, enfin d'avoir des comme ça des parcours dans les cerveaux de chacun et du coup le choix de la viole de gambe, c'est parce que je trouve que c'est un instrument fascinant et fascinant à enregistrer parce qu'il a cette sorte de qualité de son un peu saturé qui est, on n'arrive pas à savoir si c'est grave ou aigu, enfin je sais pas, il y a un truc qui fait référence à, qui est pas chaud comme le violoncelle, il a un truc plus, je sais pas, plus, il y a quelque chose de
plus fragile,
ouais. D'abîmé un peu, je sais pas comment dire, qui le rend très,
très
touchant,
très délicat, ouais.
De pouvoir enregistrer cet instrument en fait et de l'enregistrer comme on avait envie de l'enregistrer, c'était une des motivations, parce que c'est un instrument qu'on entend souvent avec beaucoup de réverb, très très anobli, on va dire, entre guillemets, par le son et un peu ce son un peu cathédral. Et qui est certainement d'ailleurs pas le son qu'on entendait à l'époque, parce que ça pouvait être joué dans des tout petites chambres,
salons.
Des salons où on est justement très proche. Et en fait, on entend beaucoup d'autres choses. Enfin, on entend par exemple le musicien qui respire.
Oui, on l'entend beaucoup. Oui,
c'est pas écrit dans la partition, je lui dirais.
C'est un choix de garder ça absolument et de pas le tricher, quoi.
Ce moment-là, ce que c'était justement, est-ce que c'est les mains qui frottent ou c'est le.
Il y a, y a les mains, il y a les mains qui bougent. Donc on est tout près de l'instrument, on entend le musicien respirer. Mais si tu l'écoutes jouer, c'est Robin Faro qui joue là en concert à 5-10 mètres. En fait, t'es spectateur de ça. T'es spectateur de lui avec son instrument. Mmh. Physiquement, il est là, et il respire fort, ce qui est normal. Mmh. Et donc ça fait partie de ce qu'on reçoit. Donc on n'avait pas envie d'avoir le truc un peu
De se projeter aussi peut-être dans le son que le musicien entend de lui-même.
Mmh. Et aussi,
De se mettre un peu dans cette... Mmh. Enfin, du coup, c'est un peu de designer cette première track. C'est pas juste on enregistre la pièce, c'est essayer de raconter quelque chose avec ça et de se projeter quelque part avec le musicien ou être lui-même. Enfin, et j'aimais bien, en tout cas cette idée, enfin en tout cas de pouvoir utiliser les phonographies comme un petit laboratoire pour ce genre d'enregistrement.
Puis on retrouve votre idée de justement à l'opposé de la composition figée, mais de l'incarnation, l'interprétation de l'humain derrière, et donc à travers sa respiration, il est là, quoi.
Bien sûr, ça compte. Ouais.
Ce qui fait qu'on écoute, hein, ouais. Aussi.
Et alors c'est vrai que du coup le choix Marin Marais. En fait, il y avait plein de choses possibles. Vraiment, quand on a commencé ce projet, on est allé chercher les pièces qu'on aime, quoi. Tu vois, les pièces qui, pour une raison ou pour une autre, moi, c'est une pièce que j'avais découverte dans un disque quand j'avais 20 ans, et j'ai toujours adoré cette pièce.
Ça a été utilisé, non? Enfin,
cette pièce-là en particulier, là, je sais pas.
On ne l'a pas cité parce que j'ai dit que donc c'était autour de Marin Marais, donc il y a une pièce précise ou peut-être.
Oui, c'est un prélude qui s'appelle le prélude en arpégement en la mineur. Donc c'est en fait en gros, c'est des suites, comme il y a les suites de Bach pour violoncelle. C'est des groupes de danse, en fait. C'est des groupes de petites pièces assez courtes dans lesquelles il y a des danses de l'époque, des gavocs, des gigues, etc., des menuets. Et le prélude, c'est une pièce libre qui n'est pas une danse, mais une pièce où le compositeur, il écrit une pièce très, très libre. Alors là, ça prend la forme des arpèges qui montent et qui descendent comme ça. Et pour une raison ou pour une autre, j'étais tombé là-dessus, je l'ai fait écouter à Jérémy, et en fait on a choisi des pièces qui nous parlent, qui nous touchent beaucoup, quoi, dans lesquelles on se projette, et puis aussi des pièces dans lesquelles la transcription à l'orchestre représente un peu un enjeu, c'est-à-dire passer ça à l'orchestre, c'est pas comme passer un truc où il y a une mélodie clairement évidente.
Le geste, pardon, je le précise, pour le deuxième mouvement, c'est-à-dire la deuxième piste où là vous réinterprétez, orchestrez, accompagnez. Ouais. Donc il y avait un défi.
Défi, c'est-à-dire effectivement choisir ça, se dire ok, je vais orchestrer ça. Ça pose quand même la question de comment c'est possible d'orchestrer ça, quoi. À quel moment c'est pas du tout attendu, disons un truc tout en arpège comme ça. C'est pas du tout facile, alors que c'est pas quelque chose qui paraît évident, quoi. Donc ça nous oblige, nous, à nous poser la question de pourquoi je le fais, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais aller chercher là-dedans, quoi. Donc
pourquoi? Parce que sur une note tenue, par exemple, au niveau, on va pouvoir travailler tout de suite facilement les harmonies, on rajoute quelques couches et c'est bon.
Il y a des musiques où les rôles se définissent plus dans la musique, quoi. Il y a une mélodie qui se détache, une basse, un accompagnement au milieu. Là, pas vraiment. Là, c'est de la matière qui bouge comme ça. Ouais. Mais c'est ça qui. Et puis nous, ça faisait appel aussi, ça faisait écho à toute l'utilisation des arpèges dans la musique du 20e, dans la musique de film d'aujourd'hui. Il y a une réminiscence de ça, et du coup, on se disait que c'est une bonne entrée en matière, en fait. Et c'est une entrée simple à comprendre.
C'est trop marrant, comme, enfin, la démarche. Je la trouve trop bien, mais en vrai, ça me fait penser genre à, tu sais, Dilla, Nine Founder, ou tous ces beatmakers, en fait, qui, avant de faire leur morceau, ils vont te mettre, tu sais, 40 secondes, une minute du truc original pour dire voilà de quoi je pars, et regardez ce que je suis capable de faire derrière, en fait. C'est vraiment cette approche qu'on retrouve finalement dans
tous les musiciens, d'une certaine manière, enfin, en tout cas,
c'est pas du tout anodin ce que tu dis ça, parce que en fait il y avait une partie de notre démarche, de notre volonté, disons, de faire ces pièces là qui était à la fois de parler de notre travail et puis de parler de
l'illustrer,
etc., mais aussi dans l'autre sens, écrire en tirant les leçons de ce qu'on avait appris en travaillant avec des beatmakers ou alors avec des musiciens électroniques, etc. Et donc d'avoir cette approche là, cette approche studio, cette approche production, mais dans l'écriture orchestrale, donc dans l'écriture dans notre travail de musicien classique, c'est-à-dire tirer des enseignements de ça. Et donc le rapport un peu au sample, ou le rapport à la production, ou au choix de la réverb, ou au choix du traitement pour guider l'écriture. Ça, c'est un truc qui était un peu au départ aussi de notre inspiration pour ce travail-là, quoi.
On était un peu des bébés de ça, mais on s'est dit que ça amenait une richesse. En tout cas, ça donnait du sens aussi
une à faire. Forme de modernité.
Mais il y avait aussi ce truc de dire, on fait un disque, donc on va utiliser tout ce qu'on peut utiliser pour le disque. On va pas se restreindre.
Ouais. Allez, on s'écoute le deuxième mouvement. Donc, je rappelle, le premier, ça ressemblait à ça. Je remets juste un peu.
La viole. Voilà, les
arpèges. Voilà, ça commence comme ça. Et donc, votre interprétation à vous, orchestrale, réarrangée, ça donne ça. Déjà, ça commence plus doux. Ça prend son temps,
ouais, tout à fait.
Le motif arpégié. Permet d'avancer un petit peu parce que le morceau dure 6 minutes. Que vous n'êtes pas contenté de la matière initiale.
Wow, on dirait presque du Philip Glass par moment sur la façon d'emmener le truc et tout.
Ouais,
l'intro là où on a vraiment l'impression de voir quelque chose qui s'approche et peut-être qui respire un peu aussi.
Complètement, c'est complètement l'idée d'une respiration au début qui va bien du coup avec l'interprétation de Robin.
Il y a
des réminiscences comme ça qui.
Et c'est vrai que ce qui était très très riche pour nous, c'était dans cette écriture là que cette musique en arpège qui est vraiment typique de cette époque là du 18e, ces trucs qu'on trouve chez Bach aussi, de par le traitement à l'orchestre avec des instruments plus actuels et puis les idées de déphasage et les idées de faire jouer des arpèges qui ont des tailles différentes et des rythmes différents entre eux, on se retrouve tout d'un coup dans cette écriture qu'on retrouve chez Glass ou qu'on retrouve chez Reich, plutôt ça. Reich que Glass dans le genre de musique, mais donc de cette idée de déphasage et de jeu comme ça avec des arpèges, et c'est des musiques qui sont pas au départ connectées l'une à l'autre, mais mais dans ce traitement, tout d'un coup, elles se ressemblent, quoi. Tout d'un coup, on dirait qu'elles ont une parenté. Et
c'est marrant parce que bah du coup, on a justement dans cette façon peut-être plus moderne de d'emboîter les instruments pour le dire vraiment très très basiquement, on a l'impression que ça sonne presque électronique en fait, alors qu'il n'y a aucun truc électronique dans ce qu'on a.
Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui est marquant. Je vous propose d'ailleurs qu'on écoute peut-être le troisième mouvement. C'est que il y a plus de similarité entre le deuxième et troisième mouvement qu'avec le premier en général.
Ouais.
D'ailleurs.
Ouais. Alors oui, que vrai. Sur le deuxième, il y a que des instruments classiques en fait. C'est ça qui est.
Mais je pense que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de vouloir écrire à l'orchestre avec avec l'apprentissage de ce qu'on faisait avec les musiciens électroniques. Donc
avec des refs actuels, quoi.
C'est ça, avec des références actuelles, et même dans le travail au moment de l'écriture, se dire ouais, je vais mettre ça dans tel type de reverb, dans tel type d'écho, avec tel type de délai, etc.
Ça, vous êtes accompagné pour ça, ou vous connaissez, ou vous avez fait confiance à un ingé son, j'en sais rien.
On travaille avec un ingénieur du son qui travaille sur toutes les phonographies qu'on connaît depuis un certain temps, qui s'appelle Étienne Kellou, et au mastering avec Adrien Palot, qui sont tous les deux des personnes qui ont beaucoup le goût de ça, de la plasticité comme ça de la musique, et d'essayer d'aller chercher un truc qui, c'est pas forcément d'aller chercher de la modernité là où il y en a pas, c'est juste de faire un truc de maintenant. Et de se dire qu'on est des gens d'aujourd'hui et qu'on fait de la musique d'aujourd'hui. Et ça veut pas dire je sais que pour le mastering, il avait vachement d'enjeux là-dessus. Il pouvait pas bosser comme il bossait d'habitude, en chanson, par exemple, ou dans les musiques électroniques, parce que c'était pas la même juste pour des histoires de dynamique. Et qu'en même temps, il y avait pas une facilité à faire comme avant. Enfin, si c'était pas, il se disait pas, c'est cool, je vais faire comme il faisait il y a 40 ans. En fait, c'était plus complexe que ça pour lui, et nous, c'est des enjeux qu'on comprenait pas, du coup, parce que c'est très technique. Ouais. Mais je trouvais ça super cool de voir que la question qu'on posait avec ce disque, elle lui posait aussi une question, lui, dans sa manière de faire, et il avait
ça emmène toute la chaîne.
C'est vrai qu'il y a des défis techniques intéressants. Alors je précise juste, d'ailleurs, je suis pas un expert non plus, mais je sais que la partie mastering, en gros, c'est un peu le dernier coup de polish, entre guillemets, qui à la fois assure une unicité sur l'ensemble des pistes, et en même temps ça peut être une toute petite dernière phase de compression, etc. Léger, on n'est pas sur le mix, mais on est quand même sur
peut tout faire, je crois.
C'est vrai, on peut y aller vraiment à fond, même au mastering.
C'est pas souhaité, mais parfois ils rattrapent, c'est l'idée aussi de pouvoir créer une patine aussi parfois. C'est pas comme l'étalonnage, parce que je pense qu'ils diront que c'est hyper grossier de dire ça, mais il y a cette idée
question d'identité. Et c'est vrai que c'est un peu moi, c'est vrai que c'est un truc que je connais pas très bien, mais quand tu viens là, que t'écoutes ça, t'as vraiment des vrais choix à faire encore, alors que t'as l'impression que ça fait quand même un moment que c'est fini, tu vois, mais tu dis là pour encore choisir, quoi. Écouter des trucs et te dire putain, ouais, c'est vrai que ça change.
C'est vraiment identité sonore, je crois.
Et vous avez relevé un truc qui est très intéressant sur la question de la dynamique. Ouais. Donc la dynamique opposée à ce qui est compressé, c'est-à-dire qu'on réduit les sons les moins forts et les plus forts, pour faire simple, l'écart entre les deux est réduit. Ouais. Et dans la musique, là on parlait de différence musique classique, musique populaire. Ouais. Globalement, dans la musique populaire, on compresse beaucoup parce que les canaux de diffusion demandent ça aujourd'hui, voire ils compressent eux-mêmes. Et que globalement, on a besoin d'avoir aussi du volume, parce qu'on sait que l'oreille humaine est complètement trompée par le volume. Plus ça sonne fort, plus on trouve ça cool. Et donc beaucoup compressé permet d'augmenter le volume global. Donc ça fait que quand tu es sur une plateforme et tu passes un truc qui sonne fort, tu fais putain, ça c'est bien.
Il y a une immédiateté de ça.
Alors que normalement, dans la musique classique, on l'entend là, entre les temps faibles, les temps forts, en termes de volume, etc. Il y a une dynamique, effectivement,
un panel. Du coup, tu passes ton temps à monter et baisser le son, quoi.
Ça, c'est ce qui se passe, dans beaucoup d'enregistrements classiques je trouve c'est un peu, c'est une forme d'aberration, mais de vouloir recréer la dynamique du concert, le fait est que quand on écoute un disque, on n'est pas au concert, donc on va pas monter le son du mec, on va juste l'écouter plus attentivement, et ce sera pas une enceinte, je pense qu'il y a un juste milieu, en fait. Nous on a déjà beaucoup moins de dynamique que dans les
nécessairement quand tu fais de l'orchestre comme ça, il y a forcément une plage dynamique énorme, enfin ça c'est tu peux pas, et nous on a essayé plutôt d'égaliser pour que l'écoute soit quand même confortable, que ce soit pas trop après quand c'est piano quand pas non plus voilà, mais c'est une question qu'on s'est posée avec Étienne, et d'essayer de trouver une sorte de juste milieu pour que ce soit naturel, mais que ça soit quand même confortable et qu'il n'y ait pas, voilà, tout d'un coup, un truc où tu es obligé de baisser parce que le truc t'explose. Notamment le truc de la fin, là, qui est très fort, qui est très puissant, mais il faut que ça reste quand même confortable, quoi. Il y a un truc à trouver.
En plus, la compression, c'est drôle, mais j'avais lu dans un truc d'Audimatch, je crois, que le.
Qu'on a reçu, bien sûr.
Étienne, bah, il a écrit l'introduction du livret.
Tout est connecté.
C'est fou, hein. C'est incroyable, on est en train de créer
le lore
crossover, Marvel, là, c'est fou.
Et j'avais lu un truc qui disait qu'en fait la compression au départ elle venait du fait de pas abîmer le matériel. Je crois que c'était d'anticiper les attaques
pour protéger les enceintes.
C'est trop bien, je trouve ça trop bien que la raison soit quelque chose d'industriel.
Et c'est devenu
quelque chose un outil artistique après. C'est vraiment génial, la compression. Je veux dire, de toute façon, rien n'est nul ou génial en soi.
Comment on l'utilise.
Exactement.
Comme l'autotune, tu veux dire, par exemple.
Exactement. Tout à fait. C'est une belle conclusion.
ce fameux troisième mouvement, garanti sans autotune, on peut se l'écouter.
Alors, c'est de qui, du coup, c'est sur
Superpose, avec qui on a travaillé.
Ouais.
Allez, donc, je rappelle, juste parce que je trouve ça rigolo comme exercice. On part de ça. Composition originale avec l'instrument solo mis en avant, la viole de gamme en l'occurrence. Derrière, vous, votre interprétation orchestrale, j'avance un peu parce que c'est là où c'était plus impressionnant. Et on en arrive donc à ce troisième mouvement qui dure lui 12 minutes. Donc là vraiment, il a pris le temps, Superpose, accompagné de vous aussi hein, évidemment, et des musiciens. Et ça donne ça. Déjà, vous preniez votre temps, mais alors notre ami Superpose, il est propre en plus. Hein.
Elle est superposée. Hein.
J'avance un tout petit peu. Aux notes arpégiées.
Ouais, là on l'entend bien. Ouais.
C'est même, il y a un morceau, je crois, de 1975 qui nous avait fait écouter un truc qui s'appelle Polymoog, je crois.
Ok.
Et qui est très proche de ça dans l'esthétique.
Donc vous disiez, l'artiste invité, on lui file les stems, donc les pistes de la session en gros,
Il entend le disque avant, quoi.
Comme il veut. Ouais, il entend
d'où il part. Enfin, d'où les gens partent.
Donc là, quand on entend de la flûte, etc., ça provient.
Ça provient de la piste d'orchestre.
Ouais. D'accord.
C'est des trucs qu'il est allé récupérer, les petits solos, comme ça. C'est des trucs, après, comme il y a beaucoup de pistes, c'est des trucs qu'on a un peu explorés aussi avec lui, de regarder un peu des différents passages qui peuvent être intéressants. Puis c'est un mélange de donc réutilisation de ces pistes-là, et puis.
Lui, il les lit entre elles après, avec,
les rajoute,
avec des leads, des pads, des trucs.
C'est ça, ouais.
Okay.
Mais dans une idée d'être quand même le plus proche possible de la matière de, de départ, quoi. Et
donc, d'ailleurs, les accords qu'on entend là, qui sont des qu'on venait d'entendre, qui étaient des accords de prophète.
Le synthétiseur.
Sinon, ça peut être aussi.
Oui, pardon. Le synthétiseur prophète. En fait, c'est des accords qui sont dans la pièce originale, donc c'est à la fois, enfin,
c'est
une manière de mettre en, de mettre en valeur des mouvements harmoniques qui existent déjà, mais qu'on entend différemment. Et Gab, il disait Superpose que lui, il avait l'impression de faire entendre ce qu'il entendait lui dans la pièce, comme si on prenait ses oreilles et qu'on écoutait et qu'il voyait lui où ça le où ça le projette. Je crois que c'est vraiment ça. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans notre démarche, c'est de faire entendre des choses dans des œuvres.
De la même manière que le premier instrumentiste qui joue la viole de gamme, c'est sa façon de le jouer, de respirer, de bouger.
Oui, c'est la même attitude par rapport à la musique.
C'est super cool.
C'est de proposer sa vision, quoi, de proposer quelque chose.
C'était d'ailleurs l'un de mes premiers réflexes là en écoutant avec vous, d'ailleurs parce que je l'avais déjà écouté à la maison et tout, mais avec vous, c'est je me dis j'adorerais l'expérience, alors soit en live carrément évidemment, soit même tu sais des trucs genre Sonorium, ce genre de truc, d'expérience en fait, on se met dans une salle avec un système son de qualité, puis on l'écoute ensemble, on fait et notamment je trouve avec le morceau La réinterprétation de Superpose, on a envie de se caler et de se prendre cette bulle musicale pendant 12 minutes, c'est comme ça, juste avec une écoute active, tu sais.
Mais c'est ça, ce qui est trop bien, c'est de sentir que ça peut impliquer un lieu ou une condition. Je trouve
c'est quelque chose qu'on a fait par ailleurs avec cette pièce-là. On a pu le faire à la radio une fois, et puis on l'a refait dans un théâtre il n'y a pas longtemps. Une forme qui est un peu inspirée de ça, pas exactement la pièce elle-même, mais quelque chose qui ressemble. Et effectivement, il y a le côté vraiment bulle sonore où on rentre dans une espèce de
monde,
voilà, de monde, d'océan de notes comme ça. Et en fait, nous d'ailleurs, parce que c'était quelque chose qu'on a reçu, commentaire qu'on a eu plusieurs fois là-dessus, c'est ce qui est très rassurant, c'est quand les gens viennent nous dire après qu'ils comprennent en fait ce trajet-là, c'est quand tu l'écoutes comme ça vraiment en entier, quand on saute comme ça, on a l'impression de passer de trucs, mais c'est marrant d'ailleurs, des trucs qui sont radicalement différents.
Alors que
quand tu l'écoutes comme ça, t'as l'impression d'être dans une espèce de flux de notes qui est assez logique, et tu comprends que même si la musique a plus rien à voir à la fin,
ça s'enchaîne quand même naturellement.
Quelque chose qui était logique, quoi, quelque chose qui était une prolongation. Cette espèce de
donc il y a quand même la progression, puisqu'on parlait de la progression dans le classique qui est plus rapide, c'est juste que là ça prend son temps.
Le temps musical a rien à voir, la perception du temps, et puis là on est en particulier dans une musique qui est très ambiante, donc qui joue vraiment sur cet effet de diffraction, mais même dans notre pièce d'orchestre il y a un petit peu aussi le même effet. Mais c'est vrai que quand on a une écoute actuelle de la musique classique, bizarrement ça peut paraître très rapide en fait, c'est-à-dire que les idées s'enchaînent extrêmement vite les unes derrière les autres.
Alors c'est paradoxal parce que dans mon esprit la musique classique c'est toujours des morceaux de 8 minutes où à la fin tout le monde est énervé.
Alors les durées des morceaux, je suis d'accord. Les durées
parce que là
sont
finalement
globalement longs, quoi.
Le morceau le plus court c'est le morceau classique.
On a choisi des morceaux courts aussi pour
poser le truc mais pas ça vole pas le show.
Qui suggère vraiment quelque chose et qui développe pas trop.
Quand je dis court, c'est surtout l'enchaînement des idées les unes derrière les autres, c'est-à-dire tu vois un morceau de classique, t'as une première phrase, une deuxième phrase, puis tu changes, tu passes à autre chose, enfin c'est comme dans un livre où à chaque fois que tu tournes une page, il se passe des nouveaux trucs, enfin tu sais que t'es pas du tout dans une espèce de son qui va être le même pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ce qui est assez typique, quoi, de chansons, soit de morceaux électroniques.
Il y a des trucs de musique un peu répétitive aussi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les Béotiens comme moi, il y a certains morceaux classiques qu'on préfère à d'autres parce que
Parce que c'est pas ici. Ouais, bien sûr, il y a cette écoute-là, cette écoute qui est plus proche de, je pense, de ce dont on a l'habitude quand on écoute de l'électronique maintenant. Ouais, voilà. Donc c'est une écoute qui est plus sur un temps, ouais, typique de 3, 4, 5 minutes dans lequel on est dans une musique, quoi. Quelque chose comme ça. Alors que musique classique, c'est, non, vraiment,
on enchaîne.
On enchaîne, quoi. On passe d'une idée à l'autre, on développe, on, voilà.
Puis on reprend l'idée d'avant, puis on repart, puis on la reprend différemment.
Ce qu'on retrouve aussi dans d'autres formes de musique électronique où on a conscience qu'il faut maintenir l'attention.
Ouais.
Parce que dans la musique ambiante, on n'est pas dans cette idée de maintenir l'attention, qu'il se passe des trucs à tout moment, etc.
Ouais, bien sûr, ouais.
Mais il y a d'autres approches musicales dans les musiques populaires où on se dit, tiens, je te donne à manger quand même régulièrement, tant que t'endors pas trop, entre guillemets. Et
bien sûr,
je vois un peu cette idée de renouvellement perpétuel, de nouvelles phrases, de
Bah, ce qui pour, enfin, pour nous, c'est hérité de, enfin, de la, des pièces dont on s'inspire. C'est-à-dire qu'on peut pas, leur enlever ça. Et justement, c'est de, j'ai l'impression que c'est ça que c'est l'idée un peu, c'est de voir comment ça crée une autre musique. Et souvent, bah, là c'est pas vraiment le cas dans cette pièce là, mais dans d'autres pièces, ça crée des mouvements harmoniques qui sont pas des mouvements qu'on entend souvent dans tel type de musique. Ou et pour les je sais que pour Ken Blaster par exemple, c'était un super outil, parce que d'un coup c'était pas des mouvements harmoniques auxquels il aurait pensé, mais du coup qui lui inspirait vachement de trucs avec ses sons. Et il me disait, vous pouvez nous jouer les accords comme ça, je les rentre dans mon synthé, parce que c'est vraiment pas les accords que je fais d'habitude. Et pas dans le sens où c'est mieux ou moins bien, mais dans le sens où ça ouvre une porte, ça lui ouvre un imaginaire. Et que là il a le contexte pour le faire, parce que ça a toute sa légitimité de le faire là. Et je pense que parfois il y a cette idée que les musiciens qui sont plus autodidactes, ils auraient pas la légitimité de faire des accords complexes et tout. Du coup, souvent il y en a qui osent pas, ou qui se disent que c'est pas ma place, ou je sais pas quoi. Et
non, puis surtout ce qui est cool, c'est que en leur donnant cette place là à la fin du disque et tout ce temps là, c'était aussi leur donner l'opportunité de faire une musique qui finalement ils auraient pas tellement l'occasion de faire ailleurs d'une autre manière, en fait. C'est quand même assez particulier, ça. C'était quelque chose dont moi j'étais assez content de voir qu'en fait ils se donnaient là aussi non seulement la place de d'écrire avec nous, mais aussi d'écrire une musique qu'ils n'auraient pas fait dans un autre contexte, quoi, d'une certaine manière.
Quoi. La peur qu'ils avaient au départ, c'était qu'on les appelle pour faire le remix qui passe à la radio et en fait d'être hyper utilitaire, tu vois, ce qui peut être un truc qu'on demande aux musiciens électroniques parfois, qui est une démarche qui peut être hyper noble en plus, parce que ça c'est s'adapter au monde et c'est super, mais eux c'est pas ce qu'ils viennent chercher souvent. En plus, dans le classique, ça peut vraiment être horrible quand même, il faut se le dire.
Ouais. Et puis vous n'avez pas pris non plus des musiciens. Alors, tout s'exerce quand même plutôt dans la scène électronique, mais c'est pas des mecs de l'EDM, pas David Guetta que vous êtes allé voir.
Ça aurait été drôle, bien sûr.
Ça aurait été drôle, mais peut-être, j'en sais rien. C'est pas la même typologie d'artistes, quoi, disons.
Non, en tout cas, l'idée, c'est pas de les utiliser pour qu'ils nous rendent cool, ou qu'ils nous mettent, qu'ils rendent moderne dans l'idée cette musique-là, mais c'est qu'on soit vraiment dans une démarche égale.
Ça peut être sympa quand même. Comme conséquence.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'on va les chercher.
Ouais.
Et parce que justement, on veut pas inverser le rapport, c'est-à-dire pas se dire que, c'est-à-dire justement, si nous on cherche à ce qu'on vienne nous chercher pour proposer des idées, pour collaborer, c'est pas pour après aller chercher des musiciens électroniques pour leur dire, bah, tu fais ça et tu le fais en 140 et comme ça c'est bien.
Bah alors justement, la question que j'avais, c'est donc, vous dites, ils ont carte blanche, vous leur filez les stems, c'est-à-dire qu'à aucun moment, à part qu'on, évidemment, c'est de la co-composition, donc il y a des échanges d'idées, etc., mais à aucun moment vous mettez des vétos sur des trucs qui pourraient sortir.
Non, on est
de pas être satisfait d'une première version,
c'est-à-dire quand on voit le truc, et puis la première fois que tu viens en studio, tu te poses dans le canapé pour écouter, t'as un petit moment de te dire j'espère que je vais aimer. Mais en fait, tu vois, c'est des gens qu'on est allé chercher parce qu'on avait confiance, parce qu'on aimait leur musique, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, et donc Superpose, c'était même encore différent, parce qu'on a vraiment fait le truc à trois, donc on était ensemble. Cédric Ken Blaster, on a un peu découvert ses propositions. Il avait bossé énormément et on était hyper impressionné par ce qu'il avait fait tout de suite, donc voilà, il y a jamais eu de questions, mais parfois non, c'est plutôt eux voilà qui sont en fait un peu avides, enfin curieux de comment est-ce que nous on perçoit le truc, comment est-ce qu'on entend en fait. Ils je pense qu'ils aiment être guidés aussi par notre oreille de voilà, on essaie de pas donner nous des directions au départ, on essaie de les laisser tranquille, mais forcément voilà, après comme on sait les musiques, on les connaît très très bien, donc voilà, on en discute et puis on voilà.
ça arrivait que qu'ils puissent nous demander des choses par souci de légitimité, et en général il y en avait aucun, mais juste qu'on soit là, comme si on pouvait être les garants de ce répertoire là alors que ça a aucun sens en fait. On est tout aussi enfin je veux dire on connaît des choses, mais ça fait pas du tout de nous des gens plus légitimes qu'eux. Enfin, surtout qu'on vient les charter pour qu'ils écoutent avec leurs oreilles, pas avec les nôtres.
Le jeune Jérémy n'aurait pas dit ça. Non,
c'est clair.
C'est intéressant, comme 180 degrés par rapport à la
trajectoire. Écoute, il a évolué, c'est bien.
Ah, mais c'est bien.
Ce que je vous propose, c'est qu'on parcourt très rapidement les deux autres volumes. Après, on invitera les gens à les écouter tranquillement avec en dehors de l'émission, à acheter les vinyles,
les acheter,
etc.
Sûr.
Donc, le deuxième volume. Donc, on a écouté l'intégralité. Enfin, l'intégralité des extraits, en tout cas, du premier. Le deuxième volume est cette fois consacré à Brahms.
Ouais.
Sur quelle pièce ?
Alors, c'est un intermezzo opus. Alors là, tu nous dis
119.
Bien. Okay, donc, une pièce de la fin de la vie de Brahms. Brahms, qui est compositeur allemand.
J'ai répondu hyper sérieusement.
Je me suis attaqué.
Putain, on avait dit.
Question pour un champion.
Oui, non, donc pièce de la fin de la vie de Brahms, avec compositeur allemand qui est mort à la fin du 19e, et donc pièce pour piano solo, encore une fois on part d'une pièce pour instrument seul, encore une fois une pièce qui a des particularités un peu dans sa structure, dans ses couleurs, dans
et
ses
pour
choix
vous que ce soit une galère de toute façon, c'est ça?
Ah, pas que ce soit une galère, mais que ça nous, tu sais, que ça nous
challenge,
que ça nous dise quelque chose, tiens, ça ouais. nous que ça nous pose la question de comment je vais faire ça, quoi.
Et cette pièce, et en plus, on a toujours eu, enfin moi j'ai toujours eu l'impression qu'elle suggérait une autre musique. Moi c'est une pièce que j'écoute depuis que je suis tout petit, enfin que je jouais et tout quand j'avais 14 ans, et j'avais toujours l'impression que toute la musique était pas là, enfin je sais pas comment dire, qu'elle suggérait plein de choses, comme s'il avait gommé plein de trucs, ou qu'avant il y avait plein d'instruments et que là il y en avait plus, et du coup il y avait cette idée un peu de trouver cette musique fantôme un peu derrière et d'aller l'imaginer, et c'est beau parce que c'est une des dernières pièces qu'il a écrites, c'est une pièce très comme on pourrait dire hyper
mélancolique.
Mélancolique et puis très très subtil. Enfin, très épuré, il y a peu d'informations. Et comme s'il voulait surtout pas trop en mettre.
Ben on s'écoute ça, c'est avec Joël Soichet, je sais pas comment faut
c'est
le prononcer,
ça, ouais. Tout à fait. Qui joue sur un pianino du 19e, un pianino Pleyel.
Pour cet enregistrement,
il y a un instrument très rare.
Un instrument très particulier, tout petit piano, assez particulier.
Comment vous l'avez trouvé?
Pianino.
Pianino, un mini piano. Ouais.
Parce qu'on allait chercher Joël, qui justement, je savais qu'il connaissait plein d'instruments un peu atypiques comme ça, et encore une fois, c'était beaucoup pour des questions de son, et je voulais trouver un instrument, enfin avoir un son de piano qu'on n'entend pas souvent, et qui peut s'apparenter à une sorte de Rhodes qu'on joue très doucement, enfin dans des tonalités très douces. C'est un instrument qui est très impressionnant, et c'est l'instrument sur lequel Chopin a écrit tous ses préludes, pour ceux qui connaissent.
Allez, on s'écoute ça. Intermezzo, opus 119.
Exactement.
Moi, ça me fait très peur, tu sais, les titres de musique classique. C'est toujours plein de chiffres et tout, c'est une galère.
On a cherché à les changer sur Spotify et ils sont pas d'accord. Ils veulent pas, alors que franchement, tout le monde s'en fout de savoir si c'est l'opus 119.
Bah, ça ressemble à, ouais, c'est des trucs limite, on dirait des capsules de café ou des cartes.
C'est terrible, c'est terrible. Allez, on s'écoute ça. Thank you. encore une fois, on entend les déplacements de l'instrumentiste,
la chaise qui craque.
Il y a plein de mécanismes dans le piano aussi.
Là, pour le coup, t'enregistres un instrument comme ça qui a plus de 150 ans. En fait, t'appuies sur des touches, il y a tout qui vibre, il y a tout du bruit, ça grince de partout. De toute façon, tu le joues, ça fait une espèce de bruit qui, voilà. Donc, ça sert à rien d'essayer de le cacher. Ça fait partie de la.
Ça transporte aussi.
Alors, votre interprétation, la deuxième piste, le deuxième mouvement, plus orchestral.
C'est ça.
Ça donne ça. Idée. Puis enfin, on termine la chaîne. Donc, on fait ça d'un coup.
Allez.
Donc,
là, cette fois. Le choc esthétique.
la réinterprétation, la réécriture, même avec Can Blaster, une forme aussi de remix, on l'a bien compris. Il a utilisé les pistes. Ouais. D'ailleurs, on ne s'est pas posé la question, mais sur votre interprétation orchestrale, le deuxième mouvement, on a combien de musiciens à peu près à chaque fois vous êtes entouré de.
Une vingtaine.
Ouais.
C'est non, même un peu plus en fait. Une trentaine, là, plutôt, ouais. Okay. Il y a une quinzaine de cordes, je me souviens plus exactement.
Tout enregistré ensemble.
Les cordes ensemble. On a fait par groupe les cordes ensemble, les bois et les cuivres. Il y a trois bois, trois cuivres.
Percussion,
harpe, et puis ouais, un petit orchestre. Par rapport à comment ça sonne, ça fait pas beaucoup de monde en réalité, mais. Okay.
Mais en gros, ouais, on a voulu pouvoir enregistrer tout séparément pour pouvoir traiter les sons, pour pouvoir vraiment chercher après les prises aussi, enfin comme un disque en fait.
Et vous disiez tout à l'heure que vous avez envoyé les pistes, mais qu'il y en avait beaucoup, donc c'était une galère. On peut avoir une idée du nombre de pistes
Je
pense qu'on est de toute façon.
Ça fait des groupes, j'imagine.
Oui, voilà, ça fait des groupes. Mais oui, on est à 300, je sais pas. Il doit y avoir un truc du genre, quoi. Mais bon, j'ai déjà vu 20 pistes de kick dans des prods et qui étaient nécessaires.
On ne remettrait jamais ça en cause. Allez, la version donc de Can Blaster. Can Blaster, je précise d'ailleurs pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui était dans Club Cheval, qui avait bien marché à une époque avec sa petite bas, mid, etc. Il faisait partie de ce groupe-là. Je sais pas s'il a utilisé du modulaire. Il est assez connu pour ça. On a bossé avec lui il y a pas longtemps avec le son.
C'est full modulaire.
Ça commence en full modulaire avec son modulaire qu'il venait d'avoir. Et c'était une des meilleures raisons de commencer.
Super. Allez, la version de Can Blaster et Code. Univers encore.
Ouais, complètement. Ouais.
On se fait pareil, rapidos, avec le troisième.
Allez.
Est-ce que même Moi, j'avoue, j'aime bien cet exercice. En fait, je trouve ça intéressant de comparer et tout. Après, c'est frustrant parce que les morceaux sont plus longs, etc.
Non,
vraiment, allez les écouter.
Ça donne une idée.
Ah, là, sur le troisième, le deuxième mouvement est quasiment fait la même longueur que le troisième.
C'est vrai.
Ouais. Enfin, on se permet des libertés.
On a beaucoup plus développé dans
l'écriture, on les a écrits un peu dans l'ordre 1, 2 et 3. Puis dans l'écriture, en fait, tu réfléchis aussi à ce que t'as fait avant. Puis tu fais progresser un peu le processus. Mmh. Et donc, voilà, notre rapport à l'écriture et à notre place dans le disque, il évolue aussi un petit peu au fur et à mesure, quoi. C'est normal.
Donc, c'est dans le volume 4 apparaître.
ça va être très long.
Un deuxième volume. 4 plus long que le troisième, en fait.
Deux vinyles par volume.
Et tu rigoles, mais il y aura d'autres volumes, c'est prévu.
J'espère,
ouais.
C'est en train d'être fait.
Et donc, ce volume 3, il est consacré cette fois à Claude Debussy.
À Debussy, ouais, avec une pièce pour flûte seule. Encore un instrument seul, encore une pièce un peu énigmatique pour plein de raisons. Une pièce qui s'appelle Syrinx, qui est une pièce de 1913. Une pièce qui a une histoire un peu bizarre parce qu'elle est écrite pour une pièce de théâtre qui finalement la musique a pas été utilisée. Il reste ça, donc c'est comme une espèce de petite esquisse de quelque chose qui aurait pu être plus long, mais il reste ça. Pièce qui fait beaucoup référence à l'antiquité grecque. Un truc qui était très à la mode au début 20e, voilà. Donc derrière ça, il y a l'image de la flûte de Pan, le mythe de la création de la musique par le dieu Pan, la flûte de Pan, etc. Et voilà, c'est rien que ça raconte ça.
Il y avait une volonté, j'imagine, pour chaque volume, pour chaque EP, entre guillemets, de choisir une période différente, une esthétique différente. Parce que là, clairement, on a fait, si je dis pas de bêtises, 18, 19, 20e.
Ouais, ça a l'air très organisé comme ça, mais notre volonté, c'était plutôt d'être désorganisé, c'est-à-dire dans le sens que les trois EP soient pas cohérents l'un avec l'autre. C'est-à-dire, on voulait pas avoir un truc genre que de la musique allemande ou que de la musique du 18e, ou voilà. On voulait faire un truc où on tape dans un style ici, un autre style là, puis un autre style là, pour avoir une espèce de truc qui ressemble pas à un programme, voilà.
Ouais. Mais mine de rien, c'est quand même assez cohérent, le truc.
Voilà, c'est par ordre chronologique. Voilà, c'est par ordre chronologique. Ça aurait pu ne pas être le cas, mais là, c'est vrai que ça se passait bien comme ça, ouais.
Ok. Allez, Syrinx, tu disais c'était pour flûte, c'est ça, hein?
Flûte, ouais.
Et là, c'est Anna Besson.
Exactement.
À nouveau respirer, mais ouais. J'entends même un léger bruit de moteur derrière. C'est quoi, un petit...
c'est le souffle dans la flûte qui parfois
ça vibre, marrant,
ouais. Ça vibre et ça fait
c'est étonnant.
Sur certaines notes et tout.
Votre interprétation à vous, plus orchestrale, je me répète un peu, ou c'est
un peu
hein.
ça va
mais en même temps c'est ça, donc
le deuxième mouvement, allez, ça donne ça.
Chaque fois, c'est super visuel, en fait. Moi, à chaque fois que les cordes rentrent, j'ai vraiment l'impression de découvrir un truc sur un écran géant. Et la flûte, en plus, ça fait très Star Wars, Tatooine, quand le texte défile et qu'après la caméra panote sur la planète, et t'as une petite flûte.
C'est vrai, dans les étoiles.
Ouais. C'est le truc aussi très mythologique, ces références-là. Y a, de toute façon, il y a toujours... je crois, enfin, on aime bien jouer avec ça aussi, enfin, ce qui est devenu une sorte de cliché cinématographique, mais du coup, qui est un outil pour nous, pour s'appuyer, pour que.
C'est de la narration.
Ça fasse, ça fasse référence à quelque chose, soit pas, de l'utiliser plus comme un lien avec l'auditeur que comme un truc qu'on veut surtout pas faire.
Ouais. Parce que ça serait... ça marche du coup, parce que moi je pars à chaque fois.
Hein. Bah, écoute, c'est trop bien.
C'est parfait. Et enfin, dernier morceau. On est toujours sur Debussy, évidemment. Le troisième mouvement. Cette fois, vous avez travaillé avec Bachar Makhalifeh. Pourquoi, d'ailleurs, comment s'est fait la connexion? Vous le connaissiez déjà? Parce que Superpose, on a compris qu'il y avait déjà eu de la, ouais. Voilà. Ken Blaster, un peu moins. Vous êtes un peu plus rencontré comme autour du projet, non?
Ken Blaster, moi, je l'ai rencontré, parce que je bossais avec lui sur un projet, avec Jacques. Okay. Musicien électronique. Ouais. Et on s'est hyper bien entendu. Enfin, et puis, je me suis tout de suite projeté dans le fait qu'il fallait qu'on fasse un truc avec lui parce que, il était, foisonnant d'idées déjà, très riche et très, il avait beaucoup 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 d'appétit pour la différence, enfin pour ce qu'il connaissait pas et il avait pas de limite vraiment.
Donc, et avec Bachar ensuite.
Et Bachar, c'est des connexions beaucoup plus simples au départ parce que c'est un, je crois que c'est un altiste donc qui est dans l'orchestre qui le connaissait du conservatoire et on avait joué un concert de Fishback et Bachar était dans la salle et du coup Fishback. on s'était
encore le lore DLT, on a reçu Fishback,
incroyable, c'est le DLT vert,
absolument,
on l'a reçu
et on avait joué avec elle et puis il se trouvait que Bachar était dans la salle et puis après on s'est dit il faut absolument qu'on se voit, moi ça, j'avais écouté ce qu'il faisait et je trouvais que c'est une collaboration qui me semblait évidente et puis il a pour le coup il a vraiment un parcours classique donc il a fait un,
il a vraiment la double culture,
il a vraiment une sorte de double casquette et lui il a plutôt justement un peu vraiment voulu mettre de côté tout ce qui retenait de la musique classique et on avait pas mal parlé de ça et qu'il avait comme s'il avait une sorte de traumatisme un peu de la manière dont on faisait de la musique dans le milieu classique, parce que c'est vraiment le milieu classique, c'est pas la musique classique, c'est la manière dont on entend la jouer.
Allez, on s'écoute ça. J'ai commis un sacrilège.
T'as coupé juste avant la plus belle note.
Oh merde, attends, je vais essayer de retrouver. Attendez, bougez pas.
C'est énorme, t'as vraiment coupé pile.
C'est terrible, je suis désolé.
C'est parfait. Non, mais c'est parfait. Et les gens la connaissent pas, pour rien.
Je l'ai déjà passé.
Ouais. C'est pas grave. Mais c'est beau quand même. Après, ça monte là.
Après, ça ressemble à ça. Bon, je suis désolé pour ce massacre, mais allez écouter, écoutez le morceau.
Ça tease, c'est bien.
Comme, exactement.
Cette note?
Il a l'air très bien, ce morceau. Il donne très envie de l'écouter en entier.
Ouais.
Et on retrouve d'ailleurs la sonorité un peu orientale. Ouais. Bachar est d'origine libanaise. Son père est un grand d'ailleurs joueur de oud, luth libanais. Et il y a ce côté très percussif, qui fait penser un peu. Ouais, bref.
Ça se prêtait très bien à cette musique-là. Enfin, je parlais de la Grèce antique là dans la pièce de Debussy. En fait, c'est un peu un mélange de plusieurs trucs parce qu'à la fois on a l'impression que c'est beaucoup. Il y avait beaucoup de compositeurs qui faisaient ça au début du XXe, des pièces qui sont un peu exotiques. Alors c'est vraiment esprit hyper colonial de l'époque,
ouais,
mais
exotique
genre,
au sens
exotique au
européen.
Sens, voilà, c'est ça. Et donc du coup, se faire des musiques qui sont soit inspirées de l'Asie, il y a beaucoup eu de la mode du Japon, beaucoup eu de la mode de l'Orient. temps, etc. Et donc c'est des trucs qu'on retrouve un peu dans la pièce de Debussy, de manière un peu éparse. Donc je trouvais ça sympa d'avoir la vision de Bachar sur cette pièce-là, et de voir un peu comment est-ce que cette musique allait résonner avec sa propre musique, parce que finalement on a l'impression que la pièce de Debussy fait une espèce de décor autour de sa propre musique, puisqu'il y a quelqu'un qui est extrêmement virtuose avec le piano. C'est vraiment un très 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 bon musicien, un mec hyper inspiré. Et du coup c'était marrant de voir ce mélange se faire.
Lui me disait qu'il avait une gêne justement par rapport à ça. Enfin ouais. pas maintenant, mais quand il a pris la musique, toute cette période du début 20e très exotisante, ouais. Il disait que ça le gênait vachement, et il me disait que c'est vraiment pas du tout ce qu'il préfère chez Debussy.
Ouais,
ouais,
heureusement c'est colonial.
C'est pas du tout ce qu'on traitait d'ailleurs dans Syrinx, parce que moi ce qui m'intéressait dans Syrinx c'est plutôt le côté musique pour le théâtre, et du coup le musicien qui est censé être sur scène, qui est censé jouer un personnage quelque part, ça je trouvais ça très cool.
Ouais.
Et puis le fait qu'il y a plein de dans la manière dont était composée la pièce, qui a l'air improvisée mais qui en fait contient plein de modes de modes musicaux qui après se sont vraiment développés dans le 20e siècle. On s'est amusé un peu à justement les développer à l'intérieur de notre pièce aussi. C'est pour ça qu'on entend des choses qui frôlent avec des esthétiques que peut-être les gens penseront à des choses beaucoup plus contemporaines, mais qui sont en fait plutôt de la musique contemporaine des années 60 ou 50. Je dis pas de bêtises, c'est lui le chef de ça. mais du coup voilà, c'était pour ça qu'elle nous intéressait particulièrement, Syrinx.
Ouais.
Écoutez, on retrouve tout ça à la fois évidemment sur les plateformes de streaming, sur internet, etc. Il y a aussi la version physique de ce vinyle. Chaque volume n'est pas sorti individuellement, physiquement, par contre.
Non, on a fait juste le.
Ça c'est le compile.
Ouais, la compile, ouais.
Et d'ailleurs, on peut préciser qu'elle est, quand on l'achète, on a un livret aussi qui retrace un peu l'aventure, des détails, etc. Puis votre approche. Pas intellectuel, mais enfin en tout cas voilà le désir qu'il y a derrière
le début,
ça,
le début de ça. Comme
vous le voyez là, c'est des musiques, et puis un projet qui amène au moins à discuter, quoi, qui amène à être présenté. C'est quand même intéressant d'avoir un peu des outils pour, même si c'est très bien de rentrer dedans comme ça sans avoir rien lu, mais je veux dire c'est intéressant d'avoir un peu des pistes un peu pour suivre ce travail, quoi, il me semble.
Il y a des gens qui adorent lire le livret en même temps que d'écouter. Enfin, il y a quelque chose de, une sorte de double écoute qui se fait, qui est aussi une manière de rentrer dedans, et qui est pas du tout obligatoire. On avait à cœur, en tout cas, d'avoir un objet, en fait, sur lequel on puisse aussi se baser, même juste pour communiquer aussi, tout simplement, parce que quand on a un projet de musique instrumentale avec un orchestre, c'est compliqué en fait de trouver des
la démarche.
En fait si on met trop de visuels, en fait on en a pas assez, et du coup ça résume trop, donc on essaie de choisir là où on incarne les choses, et le vinyle, le triple vinyle, c'était une super manière de d'incarner ça en objet.
Donc voilà, achetez-le, hein, ça sera plus simple que d'écouter sur Spotify.
Ah, en vrai, moi je suis jaloux que Daz reparte avec. Est-ce que tu m'inviteras à l'écouter sur ta platine?
Mais bien sûr.
Il est lourd, tu vas voir. C'est pas foutu de votre gueule.
Je suis très content d'avoir enfin un truc moi. Même s'il a fallu que je me jette dessus quand vous êtes arrivés, mais bon, voilà.
En vrai, on n'a pas si souvent des cadeaux, parce que tu fais comme si je m'emparais de tous les cadeaux à chaque fois, mais en fait, on n'a pas si souvent.
Oui, mais quand on en a, tu t'empares de tous les cadeaux.
Soit les livres, c'est vrai.
Voilà, moi je me retrouve à les acheter. Des fois en double exemplaire en plus.
Je les achète souvent aussi. Il faut être là, tu vois, normal.
Bon. Salman, du coup je crois qu'on passe direct au reco.
Ouais, je pense qu'on va zapper. On pensait à une troisième partie, mais ça fait déjà près de 2 heures qu'on discute.
Ouais,
je pense que c'est très bien. On a parlé de musique principalement.
Je pense que c'est cool.
Ouais. On va passer au reco. Si, j'ai peut-être une toute dernière question, Da, si tu me le permets.
Bah, c'est magique.
C'est un truc tout court, mais on aime bien parler des histoires un peu business parfois, etc., dans cette émission de droit et compagnie.
C'est des auteurs morts, donc des
juste pour être certain, effectivement, ces compositions sont dans le domaine, sont libres public, de droit, dans le domaine public.
Alors celle-là en particulier, celle-là le sont dans le dans le dans la musique classique, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses. Mais il y a un temps.
C'est quoi, c'est 100 ans?
C'est 70 ans après la mort du compositeur. Pour moi, alors ça a peut-être changé récemment, mais récemment on apprend que tel ou tel compositeur devient libre de droit. Il y a les histoires des années de guerre aussi qui
y a
fait
Ravel
que ça.
Qui est tombé
Ravel et c'est assez récent par exemple. Ouais.
Ah, voilà.
Donc on a le droit d'y toucher.
Ça y est, c'est bon. Ah, il va se faire tabasser Ravel. Là, je pense que
c'est pas du tout impossible de faire ce genre de choses avec des musiques qui sont pas libres de droit. Ça dépend vraiment des héritiers, voilà. Ça dépend des maisons de production ou de je sais pas qui a les droits de ces trucs-là. C'est faisable en fait. Ça peut, voilà, c'est plus compliqué, mais en fait c'est ouais. faisable quand même.
On
c'est
a vrai déjà que beaucoup de matière avec les gens qui sont morts. Hein, ça ouais. Ouais. Les gens qui sont morts il y a plus de 70 ans.
Ouais. Sur des trucs plus actuels, si on a envie de sortir un truc, ça devient une question. Voilà, ça devient une question de savoir si on peut avoir les droits ou pas.
Et ce qui est marrant aussi, c'est que là on utilise du répertoire de compositeurs qui ont évidemment pas du tout la même démarche que nous. Ce qui est moins le cas de si on prend une œuvre du je sais pas même des années 60 ou il y a déjà une vision qui de la conception d'une œuvre ou d'un disque ou quoi qui est déjà là, donc c'est pas, il y a moins ce
l'aspect commercial, l'aspect
ils sont déjà dans un monde qui prépare le nôtre, donc il y a là ce qui est drôle, c'est qu'il est intéressant pour nous, c'est qu'il compose dans un univers et dans une société qui est pas du tout la nôtre. Et du coup avec une vision de comment elle va être écoutée qui est pas du tout celle qu'on projette nous, donc ça nous permet aussi vachement d'imaginer quoi et
ils auraient évidemment pas donné leur autorisation,
c'est ça. C'est possible.
Et question un peu dans la même continuité, le projet est beau, je trouve ça très réussi, bravo, vraiment.
Merci.
Mais j'imagine par contre que ça a été beaucoup de travail et que ça a réclamé des fonds aussi, mine de rien. Enregistrer des instrumentistes et tout.
Ouais, bien sûr.
Juste en quelques mots, parce qu'on n'a plus vraiment le temps, mais comment on trouve l'argent pour produire un disque ambitieux comme ça?
On prend vraiment le temps parce que
on fait les choses petit à petit
et du coup on les pense pour les faire petit à petit, c'est-à-dire qu'on n'est pas protocolaire à se dire on fera comme ça et point barre. On essaie de s'adapter à ce qui est possible et
c'est dire qu'on le fait grâce à Grand Music Management
qui nous suit depuis longtemps et qui a investi des fonds, qui a trouvé des subventions évidemment, mais il fallait aussi pas mal avancer de l'argent et tout ça.
Ouais.
Et après c'est accepter qu'on est dans un projet qui est pas, en tout cas les phonographies, qui est pas un projet commercial, mais de se dire que c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire et que
donc c'est en fait d'une certaine manière consacrer une petite partie de notre énergie et de notre travail qu'on fait par ailleurs à garder quelque chose pour pouvoir aboutir à ça. Et donc petit à petit en mettant un peu de côté, en essayant de faire en sorte que le travail qu'on fait par ailleurs puisse nous permettre de faire ce travail-là en parallèle. En fait, c'est vrai que ça demande de l'organisation un peu sur le long terme, quoi.
C'est la bonne démarche, hein. On en parlait même en antenne sur d'autres médias, mais ouais, pouvoir travailler au quotidien pour se permettre de faire des trucs qui nous tiennent à cœur, c'est...
Parce qu'on va être clair entre nous, c'est pas avec un objet comme celui-là que vous allez devenir riche ou générer des revenus, j'imagine.
Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que ça puisse exister. C'est déjà la réussite.
Par contre, nous, ce qui était hyper important pour nous, c'est que le projet ait une résonance, donc de pas faire juste un truc pour nous. C'est pas binaire, quoi. C'est pas soit on fait de l'argent, soit on fait vraiment un truc que pour nous, et tant pis si les gens écoutent pas. Il y avait quand même l'idée de démarrer une histoire et de provoquer des choses. Quand je dis qu'on pose des questions quelque part aux gens qui écoutent, c'est à la fois on pose des questions à l'auditeur, que je connais pas, mais aussi, typiquement à Grand, quand on leur parle du projet, eux, ils ont l'habitude de bosser des projets plus pop et tout ça. Du coup, ils doivent déplacer un peu leur manière de bosser aussi. Les attachés de presse avec qui on travaille, enfin tout le monde est obligé d'inventer des choses. Il y a pas de programme préconçu pour traiter ce genre de projet.
En gros, le projet, il est réussi si à la fin de 1, 2, 3, on est chaud pour faire 4, 5, 6.
C'est ce que je me dis beaucoup sur des trucs comme ça, c'est de me dire si déjà il y a de l'envie, déjà ne serait-ce que pour les gens que trois autres volumes existent, déjà c'est un super point de départ parce qu'on peut s'appuyer là sur un désir, ce qui n'était pas encore le cas à l'époque.
À l'époque, il y avait notre seul désir là maintenant. Ouais.
Et je crois que c'est de croire à ça et de croire au fait que ça,
Par contre, faut creuser, faut pas se dire qu'on peut creuser n'importe où. Donc, faut quand même imaginer des choses en se disant, bah, ça va nous permettre d'avancer vers là.
Et puis proposer quelque chose à chaque fois de nouveau entre guillemets.
Oui, ça, renouveler aussi, c'est ça, renouveler l'expérience, continuer à faire que ce travail-là, c'est un laboratoire d'expérience, c'est un laboratoire de un peu de recherche si on veut, mais de recherche esthétique, de proposer des approches et de proposer une écoute nouvelle de ces musiques. Quoi.
Mais ouais, pour un truc de business par exemple sur les distributeurs, on a un moment on s'est dit nous assez naïvement qu'il fallait qu'on trouve à la fois un distributeur plutôt de musique électronique et un parce qu'on se disait que dans cette niche là il y allait avoir des gens qui allaient avoir envie d'écouter ça, mais on disait évidemment aussi dans le milieu classique. On a appelé des distributeurs qui sont plus spécialisés dans le classique et qui, en gros, pas tous exactement de cette manière-là, mais ils nous ont quand même dit que s'il n'y avait pas de possibilité vraiment de faire de l'argent avec un disque, ils ne voyaient pas pourquoi il fallait le faire. Donc, et qu'ils disent en gros qu'ils se font de moins en moins d'argent avec les disques et du coup, ils en font de moins en moins. Ils font les gens connus. Et
ils font de plus en plus les disques qui rapportent de l'argent. En gros, ça te met dans une espèce de logique.
Et puis même, c'est aussi ce qu'on impose. Hein. Je pense que c'est pas eux qui déploient une idéologie. Je pense qu'elle est là intrinsèquement. Mais qu'il y a aussi l'idée que si on fait un disque, c'est pour vendre un concert. Dans ce milieu-là.
Oui.
Alors que nous, c'est pas du tout la démarche. Et
ça pourrait arriver quand même.
Ça pourrait arriver, mais c'est pas le but en soi. Alors que dans le milieu classique, vraiment, c'est pour ça qu'il y a, c'est absurde. Mais enfin, moi, je trouve ça absurde. Mais il y a des ensembles ou des artistes qui sortent trois albums par an.
Ouais. Le disque est un objet promotionnel, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Et je trouve ça. Si ça coûtait pas d'argent et que c'était facile et que tout est que pourquoi pas, mais là du coup il y a des disques qui sortent vraiment qui sont pas des disques en fait, qui sont,
ouais, sont pas, des, pas comme moi j'entends, c'est des flyers quoi.
Ouais et encore, enfin je sais pas, même un flyer c'est un flyer, il a son utilité, c'est d'être un flyer. Un disque son utilité c'est pas vraiment d'être un objet promotionnel. Enfin
non, mais c'est comme ces gens qui écrivent des bouquins pour avoir le droit d'être ensuite invités sur des plateaux de
télé. Oui, c'est ça.
Le bouquin, en fait, on s'en fout, c'est juste une passerelle.
Ouais. Non, mais il y a encore des très beaux disques de musique classique.
Ah oui, ça, c'est bien de se rattraper comme ça, parce que là, on est en train de tirer sur la musique.
Je tire pas sur les gens qui font, les musiciens. Je tire vraiment sur cette obligation de faire des disques qui est une sorte de truc, une sorte de serpent qui se mord la queue, et on pourrait considérer le disque autrement.
Très intéressant. Daz, je propose même qu'on saute les recos parce que.
Oh, c'est dommage, j'en avais.
C'est vrai, t'en avais une. Tu le gardes, on enregistre un autre épisode cette semaine. Alors les gens l'auront dans 15 jours, mais.
Ok.
On aura le droit de savoir après.
Allez, vas-y, ça marche. Est-ce que vous avez. On termine toujours, c'est la tradition dans l'émission avec les recommandations ou en fait un truc que vous avez découvert récemment ou que vous adorez, que vous avez envie de faire découvrir à nos auditeurs. Daz va commencer avec un morceau, on enchaîne rapidement. Désolé François, cette émission sera un petit peu longue. Mais allez, faisons les recommandations.
Oui, et ben justement, moi,
la démarche
me faisait penser
dans vous aussi, oui.
Au beatmaking, moi j'ai envie d'écouter le morceau de Dilla, JD, grand beatmaker, influence incroyable sur le hip-hop, mais pas que, parce qu'il a produit pour... Enfin, on écoute du JD sans même le savoir, il a inspiré des musiciens qui sont actifs aujourd'hui. Le morceau s'appelle Don't Cry.
On s'écoute ça ?
Allez, c'est la même démarche. Là, c'est le mouvement. Là, on arrive au 2. Baby, qui pose le morceau original et après il montre comment il le bousille pour faire autre chose.
Ouais.
Et voilà, c'est JD, c'était un génie, c'est toujours un génie d'ailleurs. Je rappelle que sa MPC est au muséum à Washington, là, un truc.
Okay.
Là, elle est exposée, quoi. La machine est exposée parce que il a créé un truc, quoi. Voilà.
Le grand JD là, dans
le Smithsonian, voilà. Elle est au Smithsonian à Washington.
Smithsonian, très bien. Écoute, moi je vais mettre un morceau que j'ai adoré récemment, mais en fait le problème c'est qu'il évolue beaucoup aussi et c'est presque frustrant. Je vais voir peut-être que j'avancerai un petit peu dans le morceau.
Vas-y.
C'est Insecure de Nit qu'on recevra peut-être dans ce podcast.
Oh là là, ce lore qui se met en place.
Là, absolument, ça. Artiste de musique électronique, disons, qui accompagne beaucoup de gens. Il a fait beaucoup de choses avec Sébastien Tellier notamment, et qui développe de plus en plus sa carrière solo. Voilà, et son tout dernier morceau s'appelle Insecure. Ça évolue encore après. Bref, le morceau est trop bien, il est trop fort. C'était Marocco.
Oui, je suis un peu fan, j'avoue.
T'as l'air.
Morceau pour les Lyonnais, hein. Très funky flex, hein.
Les gars, est-ce que vous avez Jérémy, Léo, chacun peut-être un.
Moi, j'ai un morceau de Smile que j'aime beaucoup.
Ok.
Sur le dernier album. Qui s'appelle, je sais pas, faudrait que je vois les noms. Je sais plus comment il s'appelle.
Donc l'artiste s'appelle Smile.
The Smile. C'est le groupe de Johnny Greenwood et Tom York. Et du batteur, donc on connaît pas le nom, mais qui est très 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 bon.
Est-ce que c'est le tout dernier album?
Oui, où il y a vraiment tout, enfin, je sais pas, tous les trucs cool de Johnny Greenwood. Il y a ce qu'il y a de mieux de Tom York, et puis ça part complètement en couille à la fin avec des cordes très dissonantes et tout. Enfin, et en même temps, c'est très rock et c'est, enfin, je sais pas, il y a je sais pas, j'aime beaucoup.
Allez, The Smile, Bending Hectic.
Il a un truc avec où il se désaccorde avec sa guitare là sur le. C'est trop beau.
Continue à le laisser avant. Tu veux que j'avance un peu?
Et la voix. Tu peux avancer si tu veux faire écouter juste un peu le. Avec partie de temps, trop bien. Tout est trop classe. Ah, c'est ça. Ouais.
Très élégant.
Et à la fin, toi, mais la suite, juste pour parce que ça part vraiment, vraiment en couille après la fin. Voilà, on arrive là-dessus. Et laisse un peu, parce que c'est cool.
Ah ouais.
Là, ils se désaccordent aussi, quoi, d'une certaine manière.
C'est très élégant. et ça part en slasher et...
ouais. C'est très très bien ça.
J'adore.
Bending Hectic, The Smile. Bon, de toute façon, avec deux mecs de Radiohead, ça.
Oui,
ça
oui, pas trop ouais, bah, parfois quoi. C'est chiant, hein. Parfois, moi, ça me fait chier, je trouve ça, parfois, je trouve ça un peu, ils s'écoutent beaucoup, parfois, mais.
C'est pas faux.
Mais là, c'est du génie.
Léo?
Non, j'ai rien de très actuel. Je réécoute.
Ah non, c'est peu importe que ce soit ouais. actuel ou pas, hein.
Ah oui.
Je réécoutais, le dernier disque d'Hamza, je trouve beaucoup, okay. mieux que, beaucoup mieux que dans mon souvenir la première fois.
Ok.
Incroyable.
Quel, y a un morceau précisément qui te...
J'aime beaucoup Codeine 19.
Improbable!
Ah,
Improbable.
Au plus 119. Et...
Ça. Alors ça, si on me l'avait dit,
hein?
Qui, ouais, c'est ce que j'ai
Léo, Léo fan d'Hamza.
Spécialiste voilà. du classique.
À quand là, une réorchestration d'Hamza?
faut pas me lancer. Hein,
allez, Codeine 19, Hamza.
Fin de la vingtaine, je n'ai innocent ma nouvelle biche, elle a la
ah
trentaine.
Oui,
je lui fais que du seul appartement, nouveau penthouse, ça dit quoi le sang? Scam, scam, dis-nous ce que tu veux. Toi, par le temps, la Rose Rush, devant le Nobu, château de Versailles, Codeine, hier Codeine, demain Codeine, high as fuck. Tu peux te prendre une balle si tu connais pas le code, high as fuck. Je vois la vie en motion, noyé dans la Codeine, 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 Codeine. J'vois la vie en moi, j'suis noyé dans la codeine, 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 codeine. J'vois la vie en moi, j'suis noyé dans la codeine. C'est bien d'avoir des connexions, mais c'est mieux d'être plug. Bien sûr, si j'te passe, c'est juste pour baiser, bitch, what's up? J'suis tombé dans la ligne, j'ai ni d'avoir mes 19. Ça tournait dans le nord avec la sacoche pleine de puff. Baby, j'viens du square, mais j'ai des...
Ok, y'a quand même un pont musical.
Oui, j'aime tout, mais il a un goût, il a très bon goût pour les samples de cordes comme ça. Ouais.
Il a choisi pile beau, celle où il y a des samples.
C'est clair.
Qu'on va pas te prendre pour un puriste.
Bon, Jérémy Arcache, Leonardo Ortega, Léo.
Merci
les
beaucoup,
gars.
Merci.
C'était très cool.
Ouais. Très cool de pouvoir parler comme ça.
Très ouais. agréable, très sympa.
Cool. Tant mieux si vous êtes contents. Nous aussi, on est contents.
On est toujours contents.
C'était passionnant. Ouais. Bah, on fait souvent des bonnes émissions, qu'est-ce que je te dis?
Bah, ça va. je crains la contre-émission.
Tu vois, un jour, ça va vraiment être horrible.
Sauf que moi, je suis rentré à la 25, on est à la 67, et je suis toujours à chaque fois super content de l'émission, donc, peut-être qu'on est voué à
c'est juste bien.
Avoir
de...
Bah ok, moi je l'accepte.
En tout cas, merci évidemment à la bouclette pour la technique.
Bien sûr.
Sam et Flav. Non, pas Sam. Iris
non,
et Flav.
Iris et Flav. Sam,
pas
il est pas
Sam.
Là.
Il nous a abandonné lâchement. Donc on ne le remercie pas. Merci évidemment à François. Merci Daz.
Merci Salman.
Avec grand plaisir. Merci Thomas évidemment de soutenir cette
sûr.
Émission. Les mugs sont disponibles sur le site.
Je sais pas. Avec
je sais pas. et puis, merci François, je l'ai dit, François.
Oui, on l'a dit, François, même si François nous remercie rarement, mais merci quand même.
Si, il l'a fait dans le dernier épisode.
Oui, merci pour ton merci, François.
Ah,
ça
voilà,
va.
Remercie-le pour son remerciement.
Oui. Bah, j'aimerais
te remercier
pour
retour.
Mon remerciement de ton remerciement. Bah, c'est quand même la moindre des choses.
Et nous, on se retrouve dans 15 jours.
Bah, on va quand même remercier encore une fois.
On peut, absolument.
Et Léo.
Absolument. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci aussi à Damien. Damien, il y a ici Color. Grâce à qui on a pu organiser cette
merci
rencontre.
Damien, voilà. Merci Jonas,
merci Jonas aussi.
Merci la vie.
Absolument. Merci tout le monde. Merci à vous qui nous regardez, qui nous écoutez.
Oui.
On se retrouve.